Bonjour et bienvenue à tous pour un petit épisode spécial. Alors aujourd'hui, nous sommes entre Québécois. Donc je vais laisser les invités se présenter tour à tour. Allez-y.
Qui commence?
Bah vas-y, tu es le moins timide.
Alors moi, les gens me connaissent probablement, c'est Patrick, anciennement de Blog Linux et...
accompagné de Sandrine de Blog Linux aussi.
Et voilà, épisode spécial Revival de Blog Linux.
Il y en a certains qui vont faire un saut aujourd'hui.
Oh oui.
Quand ils vont nous écouter, en fait. Mais ça, c'est intemporel. Maintenant, il n'y a pas de live en ce moment.
Donc, pour la petite information, nous sommes dans un épisode spécial. Patrick a voulu faire ça en mode après-cast, c'est-à-dire zéro note. Donc, j'ai pris à la lettre, j'ai zéro note. Je sais absolument pas de quoi je vais parler, mais en tout cas, moi, je suis très content d'être avec vous. J'ai toujours dit que si je fais du podcast, si on a lancé l'apéro des papas manchots, c'est grâce à Blog Linux. Quand j'étais étudiant en informatique, je buvais vos paroles. Sur Linux, vous m'avez transmis la passion et aujourd'hui pour moi c'est un honneur d'être avec vous, donc je suis très content d'être là.
Ben, merci beaucoup, puis nous autres aussi on est content d'être là, en tout cas pour moi, Sandrine,
moi aussi ça me fait plaisir d'être là aujourd'hui, puis je suis content qu'on ait pu laisser une trace positive dans ta vie, quand même.
Oui, c'est vrai, oui.
Bah, il y a toutes ces années de dévotion là, toutes les deux semaines, ça je pense que vous avez transmis la passion à plus d'une personne, donc
ah ben tant bien. On le faisait pour le plaisir, pour notre plaisir, c'est un peu égoïste, mais s'il y a eu des conséquences positives tant mieux.
Oui.
Et voilà. Et petite mention spéciale à DK parce que c'est grâce enfin c'est un peu lui qui m'a donné l'idée de refaire un épisode avec Blog Linux, de vous inviter, il m'avait soufflé l'idée, donc je vous ai contacté sur le channel Telegram qui est encore actif 2 ans après.
Oui, le site web aussi est encore actif.
Oui, le site web aussi est encore actif, tout à fait. Donc voilà, mais je vous propose qu'on attaque.
Tu veux commencer ou... En passant, Morgane, je voulais dire, quand on fait un épisode, même genre après casse, puis qu'on dit zéro note, là, pour moi, 3 pages de notes, c'est zéro note.
Ah, vous m'avez niaisé alors.
Moi, j'étais un peu plus honnête. Moi, j'ai 4 lignes. C'est quand même pas pire.
T'as 4 lignes. Non, honnêtement, j'ai à peu près une demi-page. Là. J'ai seulement mis des grands titres de ce que je veux parler parce que j'ai tellement de choses qui se sont accumulées. Ça fait combien d'années qu'on a arrêté, là, Sandrine?
Un an et demi, 2 ans.
2 ans, on avait regardé.
Deux ans. En 2 ans, il s'en est passé bien des choses.
C'était pas alors, très longtemps avant la pandémie. C'est ça le plus drôle.
Ouais, c'est vrai.
Ah. Est-ce qu'en 2 ans, tu es toujours resté fan du Chromebook?
Qui, ça, moi?
Ouais.
Je viens d'en parler.
Tantôt. Ok, d'accord, on va pas te spoiler alors.
Parfait.
Alors, je vous laisse vous lancer. Qui commence, comme on dit, c'est après cas, c'est absolument pas structuré, alors...
Mais moi, en fait, vu que je m'exprime assez souvent dans le podcast, j'ai pas grand-chose à dire, donc je vais plutôt vous laisser la parole et je vais essayer d'animer, de poser des questions et tout ça.
Parfait. Ça, ok. Toi, Patrick, t'avais plein de choses à raconter, tu pourrais commencer par un point, peut-être?
Ok. Je me lance, alors. Quand on avait arrêté de faire Blog Linux, j'étais sur Arch Linux encore, je crois, si je me trompe pas.
Oui.
J'ai eu certains problèmes, un peu les mêmes problèmes que Eric avait eu dans le temps. C'est beau un rolling release, mais ça finit par accumuler beaucoup de poussière et beaucoup de scrap, je dirais. Et j'ai commencé à avoir des problèmes avec ma distribution de Arch, ce qui a fait que j'ai décidé de tout réinstaller. Et j'ai pris le temps de regarder autour. J'ai essayé différentes choses. J'en avais parlé un peu aussi sur Telegram. J'avais essayé Deepin Linux. J'avais essayé une autre distribution. Je me rappelle plus le nom. Mais avec le desktop de Deepin, parce que j'aime beaucoup le desktop de Deepin. Visuellement, c'est un des plus beaux selon moi. Puis, je me suis finalement arrêté sur Manjaro.
Ah oui.
J'ai installé Manjaro. Ça a été... Une révélation pour moi. Je l'avais déjà installé dans le passé, mais j'étais un peu plus geek, je dirais, dans ce temps-là. Je préférais aller vers Arch, parce qu'on a le contrôle sur tout et tout ça. Par contre, j'aime beaucoup la mentalité Arch avec OR, qui est AUR, là, qui est le Arch User Repository. Mais j'avais plus le goût de me donner le trouble de maintenir une distribution Arch. Parce que sur mon ordinateur principal que j'utilisais pour faire les podcasts, j'utilise ça strictement pour faire du montage vidéo et quelques autres activités. Donc, ça sert pas beaucoup. Puis j'avais pas le goût de commencer à toujours maintenir à jour. Donc, je vous explique un gros Manjaro, c'est quoi? Manjaro, c'est un peu... On peut même pas dire que c'est un clone de Arch, mais ça fonctionne sous la même philosophie de Arch, avec des dépôts similaires à Arch. C'est pas les dépôts directs de Arch. En fin de compte, c'est qu'ils sont, je dirais, 2 semaines plus tard que Arch. Donc, beaucoup plus stable, selon moi. Les choses sont testées, sont beaucoup plus testées, beaucoup plus approfondies. Les mises à jour sont sécures, c'est incroyable, mais c'est aussi une rolling release. Je l'ai installé avec l'environnement de bureau, le desktop Cinnamon, que j'adore, j'ai toujours aimé aussi Cinnamon. C'est une rolling release, comme Arch. Puis, quelqu'un qui voudrait se lancer dans le monde de Arch, puis qui veut pas se casser le basic, là, comme on dit, là, je vous le dis, installer Manjaro, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Puis encore une fois, je répète, les dépôts sont complètement indépendants, sont stables. L'équipe de développement est complètement indépendante de l'équipe de Arch. Ça n'a aucun rapport. À part le fait qu'ils ont similairement les mêmes dépôts. C'est deux choses complètement séparées. C'est des équipes séparées. Ce que j'aime beaucoup aussi de Manjaro, c'est la Logitech. Elle est incroyable. C'est rapide. Ça intègre toutes les logiciels de OR, de AUR, là, finalement, le Arch User Repository. Tout est complètement transparent, mais on a une distribution extrêmement puissante et performante en arrière. Donc, moi, c'est ce qu'ils m'ont vendu. J'utilise ça depuis, mon Dieu, je dirais quelques mois après qu'on ait arrêté de faire le podcast, là, je dirais que ça fait au moins un an et demi là, que j'utilise Manjaro à temps plein. J'ai eu zéro problème. C'est une beauté. Franchement, là, je suis vraiment, 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 vraiment content. Fait que c'est la première chose de quoi je voulais parler. Pour ceux qui savent pas, là, ce que je parle depuis tantôt, le AUR, on a tendance à penser que les gens savent toujours de quoi on parle. Le AUR, le Arch User Repository, c'est un peu l'équivalent de ce qu'on appellerait les PPA sur Debian ou Ubuntu. C'est des dépôts indépendants qui sont maintenus par des personnes indépendantes. Donc, quand on utilise les AUR sur Arch, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Les mises à jour sur les logiciels sont un peu plus compliquées. Sur Manjaro, je vous le dis encore une fois, c'est complètement indépendant. Vous choisissez un logiciel à la Logitech, vous dites installer, ça l'installe, peu importe d'où il vient, vous n'avez plus à vous en occuper. Ça se met à jour tout seul. Vraiment, là, une belle distribution. Fait que Manjaro, un pouce par en haut. Vous le voyez pas, là, mais je fais un pouce par en haut.
Moi, j'ai une petite question.
Oui.
Alors, fut un temps, j'étais sur Manjaro aussi.
Mm-hmm.
Alors, du coup, je comprends pas pourquoi... Enfin, tu as les mêmes problèmes. C'est un peu du rolling release, mais aux 2 semaines. Mais donc, Du coup, tu accumules aussi probablement des librairies qui, à un coup, ne sont plus utilisées au fur et à mesure du temps, je suppose.
Oui.
Donc voilà, c'était la première remarque. Je pense que tu vas avoir le même pain point.
Probablement, oui. Rendu à un certain point, ça va être comme va falloir que je réinstalle là, complètement. Là. Oui.
Mais ça fait pas de tort de le faire une fois de temps en temps.
Ouais, carrément.
Il faut ne pas faire comme moi, c'est-à-dire utiliser le même depuis tout le temps. Je roule encore le même Arch Linux que j'avais installé avec Eric dans le temps.
De toute façon, avec l'Ubuntu et tout, c'est pareil, quand tu fais les mises à jour d'une version majeure, d'une LTS à une autre LTS, c'est toujours la galère.
Ça finit par être cassé, oui.
Ouais, toujours. Il y a toujours un truc qui va pas. Et deuxième question, c'est à l'époque où j'utilisais Manjaro, j'ai vu qu'il y avait des versions officielles puis des versions communautés. Et moi, je me rappelle que j'étais bien geek, j'utilisais la version i3, là, qui était vraiment geek, mais à un moment, il y avait la version Zipin, et là, j'arrive plus à la voir. Donc, est-ce que tu as un Manjaro Deepin, toi?
Non. Deepin, j'avais installé la distribution Deepin et je l'avais installé Deepin sur une autre distribution de Linux que je me rappelle plus c'est quoi. Mais quand j'ai installé Manjaro, j'ai installé avec Cinnamon. D'accord. Et j'ai Cinnamon depuis.
Et tu t'amuses pas à installer plein d'autres interfaces graphiques. Tu restes toujours avec celui-là.
Je reste toujours avec celui-là. Comme j'ai mentionné, là, mon ordinateur principal, ça sert pas souvent. Puis c'est la raison pour laquelle je suis allé sur Manjaro, parce que c'est stable, puis j'ai pas besoin de l'expression que j'ai même pris de note, j'ai pas besoin de me casser le basic. Puis c'est ça, des mises à jour sont faciles, puis... Non, je ne fais plus comme avant, me promener d'une distribution à l'autre et changer mon environnement de bureau et tout ça. Là. Je suis rendu pas mal stable dans ma vie Linux.
Moins intrépide, disons.
Ah, c'est ça. À l'époque, j'utilisais Manjaro. Maintenant, je suis passé à Debian, tu vois.
Okay. Enfin,
à Deepin qui est sur Debian. Du coup, tu vois, avoir des logiciels à jour maintenant.
C'est compliqué. Il faudrait que tu te connectes sur le dépôt testing.
Ouais. Bah, pendant un temps, il était sur testing, mais ça casse beaucoup. En plus, ouais. Tu sais, il y a des pins là, ils sont par exemple sur Qt 5 là, tu sais, Qt c'est des librairies de développement.
Mm-hmm.
Et puis maintenant ils sont rendus à Qt 6, alors du coup il y a pas tout le monde qui a migré, il y a les migrations qui sont en cours, tu sais, c'est toujours un peu compliqué ces trucs là.
Oui, effectivement.
Donc voilà, je suis beaucoup moins intrépide, je me suis retrouvé quand tu parles. Et du coup, Sandrine, est-ce que tu as des petits upgrades, toi?
Oui, ben depuis le temps, ou est-ce que depuis le blog Linux, en fait, les gens se rappelleront sûrement que j'utilisais beaucoup Home Assistant et je faisais beaucoup de Raspberry Pi et
trucs
comme ça. Donc, quand le Raspberry Pi numéro 4 s'est présenté, ben évidemment, je l'ai acheté. J'ai acheté la grosse version avec le plus de RAM possible. Puis là, j'ai un beau Raspberry Pi. Puis j'ai installé mon Home Assistant dedans. Puis avec le nouveau Raspberry Pi 4, on peut maintenant démarrer directement sur USB. Fait que j'ai démarré ça. Donc j'ai un beau SSD de 120 gigs cheap. Puis j'ai installé mon Home Assistant là-dedans. Puis depuis ce temps-là, ce Home Assistant-là, il a vraiment beaucoup évolué. Ou est-ce que j'ai utilisé beaucoup de, comment je pourrais dire ça, de ISP8266. J'ai laissé tomber le 8266. C'était trop de problèmes celui-là. J'ai utilisé le 8266 et le ISP32. Donc j'ai beaucoup de thermomètres dans la maison qui m'indiquent quelle température et quelle humidité il fait dans chacune de mes pièces. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir faire ça aussi. Puis, j'ai aussi ajouté des bandes de Dell derrière ma télévision et mon meuble de télévision qui sont connectées sur mon Home Assistant. Maintenant, quand que j'écoute la télévision, par exemple, ben, je peux choisir la couleur de l'éclairage selon ce que j'écoute. C'est beaucoup plus intéressant de voir ça. Ça fait très cool à voir. Pourquoi tu ris?
Allô? Allô?
Patrick, tu riais. Je te demandais pourquoi.
Ben, c'est parce que chose est partie, Morgane est plantée.
Ah ouais?
Okay. Je vais prendre la note à 16 minutes. Ah, le revoilà.
Bonjour Morgane.
Pardon.
Bon, c'est correct. C'est correct. Je disais que j'avais pas remarqué. Ça a pas duré
longtemps. Point.
On va corriger ça. Donc, comme je disais, j'ai installé des bandes de LED sur ma télévision. En arrière de ma télévision et de mon meuble de télévision pour pouvoir justement contrôler la température. Donc, quand j'écoute des choses plus tranquilles, je mets une lumière plus tamisée avec une couleur plus calme. Puis quand que j'ai des choses plus intéressantes qui se passent, je mets des couleurs plus chaudes et plus le fun. Puis en même temps, en ayant l'éclairage derrière la télévision, ben t'as pas de reflet dans la télévision.
Mm-hmm.
Ça, c'est le fun à maudit aussi. Ça éclaire bien la pièce, puis en même temps... puis les gens trouvent ça drôle, parce que quand je parle à mon ami de Google, on va pas le dire, je peux décider des couleurs et tout, là, c'est cool. Ça fonctionne super bien en même temps. Là. Donc, fait que c'était les grosses améliorations du côté de mon Raspberry Pi. Ah, aussi, j'ai changé, j'utilisais dans le temps pour filtrer les publicités sur mon réseau à l'interne. Dans mon Raspberry Pi, j'utilisais Pi-hole.
Ouais.
Mais j'ai commencé à avoir des problèmes avec celui-ci, donc j'ai transféré vers AdGuards. Pour
AdGuards.
Ouais, pour filtrer mes publicités sur mon réseau. Il sert comme c'est mon DNS en même temps et mon DHCP en même temps. C'est avec lui que je contrôle mes adresses IP internes puis mon DNS. Donc mes requêtes DNS vont pas à l'extérieur. Puis tout ce qui est les requêtes de DNS vers des sites de publicité, ben ils sont tous coupés.
Bon.
Fait que ça, c'est super le fun pour ça. Ça fait du beau ménage dans mon réseau. Pas de publicité, même sur les télévisions intelligentes.
Bon. Ben, c'est pas mal parce que ouais, le YouTube sur la télé, du coup, tu peux pas skip les.
Alors, ouais, mais quand t'as une télé est plus intelligente, genre Roku, comme j'ai chez moi maintenant. Des fois, il y a de la pub en maudit.
Non, ils te mettent la pub à l'intérieur de la télé. Wow.
Oh, ouais. Donc,
mais moi, j'ai une petite question. Ton Raspberry 4, là, tu l'as acheté avant la pandémie ou après?
Quand il est sorti, carrément.
Ouais, donc c'était avant, hein, je crois.
Ouais.
Ouais. Parce que là, je sais pas si t'as essayé. Tu sais, le principe du Raspberry, c'est d'avoir une petite carte pas chère, là, cheap. Et je sais pas si t'as rendu, mais c'est quasiment rendu 80 pièces, là. le Raspberry Pi, alors que c'est censé coûter 20 pièces, quoi.
Non, ça dépend lequel. Si tu prends le modèle de base, pas de RAM, c'est sûr que tu vas avoir un modèle moins cher. Mais quand tu prends celui qui a. Ils sont rendus à combien de modèles? Il y en a le 2, le 4 puis le 8. Fait que quand tu prends le 8, c'est sûr que tu vas payer 80$, mais si tu prends le plus moins cher, il va être moins. Celui qui a moins de RAM dedans, il va être moins cher. Faut faire attention. C'est mélangé aujourd'hui, il y a plusieurs modèles, c'est pour ça.
Ouais, mais parce que, enfin, il y a le truc là, tu sais, il y a la pénurie des composants et du coup, ça a quasiment presque doublé le
prix. Ah ouais, j'avais pas remarqué.
Enfin voilà. Et le Home Assistant là que tu utilises, c'est du Python que. Enfin, c'est une API en Python, c'est.
C'est un serveur, c'est vraiment un OS en tant que tel maintenant.
Ah oui, c'est déjà tout bundlé, tu lances
ouais,
ça.
Si tu as un Linux qu'il y a derrière, tu mets ça sur ta carte SD ou ton SSD, tu bootes, puis il se met à jour lui-même et tout. Là. Mais il est basé sur Linux, puis c'est écrit en Python, ça utilise des fichiers YAML.
Et tu lui parles en français ou en anglais?
Non, j'ai Google qui est connecté dessus.
Quand tu lui parles, s'il comprend mieux le français, il le comprend bien ou...
Non, je l'ai linké avec mon Google Home. Puis mon Google Home est en français, donc oui.
Ah, ok. Ok, ok.
Puis que ça me permet de brancher avec le service Nabucasa. C'est lui qui gère la connexion avec Google Home. Nabucasa, il est intéressé à... Ils sont bons pour garder les informations plus ou moins confidentielles entre les deux. Là. Fait que c'est intéressant pour ça aussi.
Ok, c'est du bon. Coup tu lui as mis des keywords genre change lumière à détecter, genre change la lumière pour.
Oui. Je parle aller, à mon Google puis même si c'est dans mon Home Assistant, je le vois. Et ça me permet d'avoir des appareils ISP8266 ou ISP32 que je programme moi-même puis que je leur donne des noms puis que j'ai le contrôle dessus, même si c'est pas des appareils reconnus par des constructeurs genre. Je sais pas, moi, au Québec, Stell Pro, puis d'autres trucs comme ça. Là.
Parce que, et du coup, petite question, un peu troll, mais quand tu dis change couleur bleue, ou tu mets change couleur et tu mets le code RGB pour pouvoir bien
Tu peux dire bleu, il va avoir sa couleur bleue, inquiète-toi pas. Mais tu pourrais dire un code RGB, je pense, je sais pas. Là. Je peux aller jusque-là.
Savez-vous, c'est quoi la commande la plus utilisée sur Google?
Arrête!
Ah oui, c'est ça là. Ouais. Ouais, quand tu dis j'ai, oh, tu dis ok, j'ai, arrête. Celle-là, je la dis souvent maudit aussi chez nous. Oh my god. Mais en même temps, ce qui est le fun aussi, c'est que ça me permet aussi d'avoir avec Home Assistant de me faire mes propres automations à moi-même. Sans passer par les routines de Home. Fait que ça me permet de pouvoir dire comme tous les matins, j'ai ma lumière, mes lumières qui allument dans la maison, puis j'ai mon poste de radio qui se met à jouer sur mes haut-parleurs dans la maison, au lieu de me faire réveiller par puis quand il vient l'heure de quitter pour aller travailler, quand je quitte pas, ben je le continue de le jouer. Mais quand je quitte, ça s'éteint tout seul. Là. J'ai pas besoin de lui dire. C'est vraiment intense comme ça. Là. Puis le soir aussi, 30 minutes avant le coucher du soleil, j'ai certaines lumières qui s'allument chez moi. Puis ils s'éteignent quand il est l'heure de se coucher.
OK.
Et quand je suis pas là, on dirait que je suis là.
Et est-ce que tu as mis la capacité multimédia? Tu sais, genre Kodi et tout ça, là, pour y ben jouer des films et tout.
J'ai pas intégré mon Plex là-dedans, plus qu'il faut. J'ai intégré un peu mon transmission pour les torrents, pour télécharger des distributions Linux.
Oui, oui, oui.
Oui, c'est super important. Mais j'ai aussi intégré mon calendrier avec mon agenda et des trucs comme ça aussi. C'est intéressant pour ça. Donc, tu as toujours un tableau qui t'indique qu'est-ce que tu as dans ta semaine. Puis tu peux même faire des intégrations par rapport à ça.
Et c'est quoi? C'est OnCloud que tu utilises pour regarder ou c'est Google Agenda?
Agenda. Google Agenda.
Ah, je vois que tout le monde est rendu chez Google, là.
Ouais.
Ouais.
Ben, je commence à penser tranquillement pas vite à remettre ça dans mes affaires à moi, mais en même temps, est-ce que j'ai le goût de me faire chier avec ça? Je sais pas. J'ai de moins en moins de temps, tu sais.
Mais oui, moi, je suis pareil. Je suis passé chez Google aussi. Mm-hmm. Pour dire, je paye même un abonnement Google One maintenant.
Ouais, moi aussi.
Moi, j'ai un abonnement YouTube Premium.
Moi aussi.
YouTube Premium, non, c'est abusé, ouais. Ça, quand même.
Ouais. Moi, j'ai bien Premium aussi. J'ai plus de pubs.
90% du contenu que j'écoute provient de Google, de YouTube, moi.
Oui.
Que...
Ouais, moi aussi. C'est assez intense.
Mais YouTube Premium, c'est juste que ça te retire les pubs et que tu peux écouter la musique.
Oui.
Ouais.
Globalement, ouais.
Ouais.
Mais du coup, un ADBlock, là, enfin, uBlock Origin, ça fait pas le boulot?
Non. Parce qu'ils utilisent leur propre serveur pour les pubs. Ils passent pas par... C'est ça. C'est plate, hein? Dans ta télévision, au coup, les pubs, ils passent pas. Ils sont
pas passés pareil. Ah oui, dans la télévision. Ah oui.
Même si j'avais le... Ou bien dans ton téléphone, quand tu utilises l'application YouTube, ça passait pareil. Donc, t'as pas le choix.
Non, mais moi, au début, je l'avais pris de toute façon pour la musique. Ben, je me disais, tant qu'à me payer un service de musique, je vais me payer ça. Puis en même temps, ben, j'ai plus les pubs. Fait que...
Ouais, moi aussi, j'ai pour 2$ de plus, t'as plus de pubs. T'as la paix.
Exactement.
C'est plate, on engraissit de gros, mais. Quand il y aura d'autres choses, j'irai vers.
Oh, regarde, moi, j'ai essayé pendant des années de me dégoogliser. Hein.
Mm-hmm.
Hey, on flashait nos téléphones avec des mon Dieu. On essayait d'enlever tout ce qui était Google.
C'était difficile. Puis à ce temps, on se bandait avec ça. De toute façon,
Bah, rien que le GPS, si tu, sur ton téléphone, là, si tu enlèves les Google Services, ton GPS, il perd en précision de folie, quoi, parce qu'il a besoin de 5 minutes pour se calibrer, il a besoin de machin. Quand t'as les Google Services, putain, il reconnaît qu'il y a le Wi-Fi qui est là, qui est à côté, qui correspond, qui est à peu près sur ce point GPS.
Bah ouais.
Enfin, y a pas à dire, c'est une qualité de service.
Bon, oui. Ils font pas que du mal.
Bah, ce qu'ils font avec tout ça, on sait pas, là, mais en tout cas, pour le moment, ça, c'est plate à dire, mais c'est ça, ça nous accommode énormément, puis, c'est ça, on arrive à un point dans notre vie où je dirais pas qu'on baisse les bras, mais moi, j'ai plus d'énergie à mettre là-dedans. Moi, j'y vais vers les choses qui me sont nécessaires. Je m'abonne pas à tout aveuglément. Et je contrôle absolument tout ce qui s'installe chez moi, incluant tout ce qui s'installe sur l'appareil mobile de ma femme. J'ai l'air d'un contrôlant, là, mais ça fait partie des règles.
Moi, on a plus
joué. Chez nous, tout est vérifié, tout est... T'sais, ma femme, jamais elle va installer une application ou quoi que ce soit là. Elle va toujours me dire, j'aimerais ça avoir une application pour ça. Pourrais-tu m'en trouver une, s'il vous plaît? Puis je vais lui trouver la meilleure. Je vais regarder dans les logiciels open source. Je vais essayer de trouver ce qui traque le moins possible et tout ça. Là. Fait que. On est rendu là.
Oh. Ouais, non, mais je me rappelle qu'à l'époque de Block Linux, là, t'avais donné un. T'avais fait une petite diatribe. Ça faisait longtemps que je n'ai pas utilisé ce mot-là.
Ouais.
C'est grâce à toi que je le connais. Là, t'avais fait une petite diatribe sur Airbnb parce que. Et depuis, j'applique ce conseil à la lettre, mais que tu ne voulais pas donner sur un même site ton adresse bancaire et ton adresse identitaire.
C'est parce que Airbnb, il y avait quand ça commençait à être bien populaire ici au Canada, les gens demandaient ton numéro de passeport. Mm-hmm. Là, je disais, hey, ils ont mon numéro de téléphone, mon adresse email, mon nom, mes informations bancaires et mon passeport. Wow, quelqu'un qui réussit à hacker ça, là, ouh, il vient de me prendre mon identité puis c'est pas long. Là.
Il manquerait plus que le NAS.
Il manquerait plus que quoi?
Le NAS.
Ah ouais, c'est ça, le numéro de... Ouais, c'est ça, il manquerait juste ça. Mais je vous ai-tu raconté... Je l'avais-tu déjà raconté dans Block Linux? On s'en va, on passe une chire.
OK, c'est correct. Moi, j'ai pas trop aimé ça.
Une bonne vieille chire. Il y a une entreprise dans le coin ici, je voulais faire une évaluation sur mon automobile pour la faire peinturer. Et il m'exigeait d'avoir mon permis de conduire.
Ben voyons.
Là, je leur ai dit non, vous n'aurez pas mon numéro de permis de conduire. En fin de compte, c'est par où je travaille. Après un certain nombre d'années, la peinture devient abîmée parce qu'on stationne, puis il y a des retombées. En tout cas, une longue histoire courte. L'entreprise paye pour faire peinturer les voitures. Mais on doit aller à un endroit spécifique. Et je te laisse cet endroit-là pour faire l'évaluation. Et il exigeait d'avoir mon numéro de permis de conduire. Et c'est dans le temps que la Caisse populaire des Jardins s'était fait hacker, Sandrine.
Ouch!
Alors, je leur ai dit non. Je vais vous montrer mon permis de conduire, mais vous en faites pas de photocopie, vous prenez pas le numéro en note. Ben, c'est ça, va-t'en, puis ça. En tout cas, on m'avait traité comme de la merde. J'ai entrepris les procédures contre eux autres avec le gouvernement, puis j'ai gagné. J'ai gagné ma cause. Fait que la compagnie a été obligée de changer leur système informatique et ils ne peuvent plus prendre le numéro de permis de conduire.
Aïe, aïe.
Donc, ça donne quelque chose, ouais. Ça donne quelque chose. Et je les ai rappelés... quand on y a 6 mois de ça, et je leur ai dit, c'est moi, vous rappelez de moi, c'est ça. Là, je vais faire peinturer mon véhicule, vous allez évaluer mon char, pas de problème, monsieur, pas rien du permis de conduire.
Ouais, bah, comme quoi, belle histoire. Hein?
Ça, c'est un petit coup assez fier que j'ai de ça, là. Surtout que quand j'avais commencé à me battre avec ça, les gens disaient, oh, pas ton temps, donne-leur ton permis. C'est toujours plus facile, tu sais. Mais il y a des choses, ça, je ne voulais pas donner mon permis de conduire. Parce que je suis allé voir la loi, et la loi, elle est claire. Les seules personnes qui peuvent avoir droit, peuvent exiger ton permis de conduire, c'est une institution financière reconnue, ou la police. C'est tout.
Ouais. Mais parce que t'as été te plaindre auprès de qui pour ce genre de choses-là?
C'est voyons, comment est-ce qu'on appelle ça? Le commissaire à l'accès, le commissaire à l'accès de l'information du Québec.
D'accord. Putain, ils sont actifs, ils sont actifs, hein?
Ah, j'ai fait ma plainte, ils m'ont envoyé un formulaire, c'était un formulaire d'à peu près 6 pages avec des questions pour tout décrire, et j'avais tout décrit l'événement, comment ça s'était passé, comment est-ce qu'on m'avait traité comme de la merde, on m'a carrément traité de niaiseux. Écoute, on m'a vraiment traité comme de la merde à cet endroit-là, là. Fait que c'est ce qui m'avait mis un peu, beaucoup à fusil aussi, là. Fait que... Non, c'est ça. Fait que j'ai gagné ma cause, puis je suis très fier de ça. Puis comme je disais, pour ceux qui savent pas, au Québec, la loi, elle est claire. Institutions financières et police sont les seules personnes qui peuvent prendre en note ton numéro de permis de conduire. On peut s'en servir pour s'identifier à quelqu'un, mais c'est illégal, je dis bien illégal, de faire une photocopie ou de prendre en note un numéro de permis de conduire. Peu importe l'entreprise. Mm-hmm. Même s'ils disent, nous autres, on marche de même, c'est illégal.
Ah ouais, OK. On va prendre en note.
Ouais. Ouais. Hey, ça s'en allait quasiment vers une diatribe, ça. Là.
Quasiment, ouais.
Non, mais parce que le truc, là, des jardins, on me l'a dit. Enfin, moi, on m'a dit, fais très attention avec ton NAS, là. Tu le donnes à personne.
Personne.
Les mecs, ils te demandent... Non. Parce qu'au début, il y a des compagnies de téléphone qui te le demandent et tout ça. Tu te donnes, bah, c'est pas obligatoire.
Non.
Et on m'avait dit, rigole pas avec ça. Et il y a des jardins qui se sont fait subtiliser les données, là. Enfin, bref.
Je fais partie des victimes de ça.
Oui.
Ah, tu fais partie des victimes des jardins. Wow.
Mm-hmm. Ouais, moi aussi.
Oh là là, vous étiez chez Desjardins.
La majorité des gens au Québec sont victimes de ça.
Aïe, aïe, aïe. Mais ouais, du coup, ça a fait mal. Et puis maintenant, ils sont devenus assez parano quand même sur la sécurité. Là. Dès qu'il y a quelqu'un qui fait une redemande de NIP, de machin, parce que t'as perdu ton col, là, ils deviennent... Ils ont vraiment peur qu'ils aient des usurpations d'identité, donc ils mettent beaucoup de procédures, ils font poser des questions. Combien t'as d'argent sur ton compte? Ça remonte à quand là? C'est quoi la troisième transaction que t'as fait du mois?
Ah, je suis pas contre ça, moi. Moi, je suis pas mal d'accord avec ça. Ça, c'est comme à chaque fois que je fais affaire avec ma compagnie de téléphone mobile Koudo, je répète et je fais inscrire à mon dossier que c'est impossible de faire migrer mon téléphone sur un autre appareil sans mon consentement.
Mm-hmm.
Parce que du SIM swapping, là, c'est très, 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 très populaire aussi.
Qu'est-ce que c'est ça?
Du SIM swapping.
Je connais
C'est une expression anglaise qui est échange de carte SIM. Quelqu'un se présente, exemple, chez un détaillant, Koudo, puis il se fait passer pour moi parce qu'il a volé mes informations quelque part. Bonjour, je suis Patrick Miette. Mon téléphone a fait défaut. Je voudrais le transférer sur mon téléphone ici que j'ai. Puis les gens se faisaient voler leur carte SIM. Puis en ayant la carte SIM, tous les systèmes où tu as de la double authentification, ben, tu as accès à tout. Tu peux changer les mots de passe chez Gmail. Tu peux tout changer.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tu as accès à tout, là.
Mais j'ai du mal à comprendre. Le mec, il vient avec un téléphone vide. Il est sans carte SIM dedans.
Ouais.
Il dit « Je suis Patrick Miette », donc les gens le croient sans papier d'identité, on va dire?
Oui, oui. Oui, ben sans papier d'identité. La personne peut se faire des papiers d'identité. S'il a volé ton information, s'il a toute ton information, s'il a ton numéro de permis de conduire, tu comprends? Fait que c'est de là que ça devient important de ne pas propager cette information-là, parce que c'est là qu'on se fait voler notre identité. Puis une fois qu'il réussit à voler ton numéro de téléphone, tous les sites où tu as de la double authentification, tu viens de te faire hacker ben raide. Écoute, c'est épouvantable, là. C'est épouvantable.
C'est pour ça que je préfère les apps de double authentification à un numéro de téléphone pour t'authentifier en double. Fait que comme ça, même s'ils volent ta SIM, c'est pas grave, c'est l'application dans le téléphone qui compte.
Est-ce que c'est ça que j'utilise moi aussi, Google Authenticator.
Ouais. Fait que ça sauve le problème de ça.
Sauf qu'assure-toi d'avoir des codes de sécurité, parce que la journée que t'échappes ton téléphone, ton écran craque ou quelque chose du genre, là, t'es un petit peu dans le caca sale.
Ouais, t'inquiète pas.
Ok, mais du coup, je connaissais pas cette technique-là du SIM swapping, et ouais, c'est terrifiant quand même.
Oui, c'est très à la mode.
Eh ben, comme quoi, tu vois, les vols d'identité, faut vraiment faire attention.
Ouais.
Enfin, numérique en tout cas.
C'est pour ça que jusqu'à un certain point, quand tu as une adresse email, ils ont un téléphone, puis ils ont un nom, c'est pas si pire. Quand tu commences à voir les dates de naissance, les noms des conjoints, l'école où tu es allé, quand tu commences à avoir de l'information un peu plus profonde et personnelle, un numéro de permis de conduire, whoop, un numéro d'assurance sociale, whoop, un numéro de passeport, et boy! Ils sont capables d'avoir accès à beaucoup de choses là, avec ça. Hey, moi, j'avais d'autres affaires à raconter. On est vraiment parti sur une chire.
Vas-y, tu peux y aller.
Partir sur une chire, c'est partir...
partir sur un autre sujet complètement.
On a dérivé. Okay.
Ouais. Dérivé, exactement.
Tu devrais t'embarquer.
On fait du drifting.
Là, tu m'entends mieux?
Oui, ça va bien.
Oui.
OK, parfait. Et tu peux aller sur ton nouveau point, si tu veux.
Oui, OK. Hey. Je reviens dans le passé, là, mais je remonte dans le passé assez loin, là. Je me suis relancé dans une évaluation d'éditeur vidéo sur Linux.
T'es courageux.
mais là, je crois.
C'est le running gag avec vous.
Ouais, c'est le running gag. Mais là, je crois vraiment, vraiment avoir trouvé la perle rare. Ouais. Puis je vous le dis, quand je vais avoir fini, là, vous irez essayer ça, vous allez tomber sur le derrière. Tu te rappelles, Sandrine, mais probablement Morgane aussi, vu que tu écoutais les podcasts, dans le temps, j'utilisais Blender.
Mm-hmm. Oui.
Blender, j'ai beaucoup, beaucoup aimé, parce que c'était la solution pour moi dans ce temps-là, surtout pour les vidéos assez lourdes que j'avais à traiter. Sauf que Blender, à chaque fois qu'il y avait des mises à jour importantes, ça venait tout casser mes configurations, puis il y a un problème avec Blender, là, surtout au niveau des configurations, puis là, il fallait tout que je reconfigure Parce que à la base, il est pas configuré pour être un éditeur vidéo, il est configuré pour faire de la modélisation 3D. Fait qu'il y a un paquet de configurations qu'il faut faire pour le mettre comme un éditeur vidéo. Puis ça brisait tout le temps. Fait que là, je me suis relancé là-dedans. Je dirais il y a un an et demi de tout ça à peu près. Je me suis relancé et j'ai commencé à utiliser le nouveau OpenShot. Là, j'ai utilisé OpenShot. Hein? attendez, la brique s'en vient. j'ai utilisé OpenShot pendant un certain temps. Il allait relativement bien jusqu'à ce que, là, je vais rajouter un autre aspect dans tout ça. Je m'achète un drone, un très bon drone, un DJI Mavic Mini 2, qui n'est pas un jouet, avec une caméra 4K et ton autonomie jusqu'à 10 km, un très très beau drone, et que je commence à faire... Pardon?
Est-ce qu'il est suiveur?
Oui, il est... oui et non. Il y a toutes les possibilités de faire les un paquet de quick shots, là, qu'on appelle, mais il n'y a pas le suivi en tant que tel, parce qu'il n'y a pas les détecteurs anti-collision. Faut garder en tête que le DJI Mini 2, c'est un drone en dessous de 250 grammes. Donc, il n'y a pas besoin d'être enregistré.
Mm-hmm.
De toute façon, je vais en parler plus tantôt. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de montage de vidéo à faire et j'essaye avec OpenShot. Et là, tu sais, tu regardes ce qui se fait sur les autres blogs, tout ça, puis tu dis « Waouh, c'est donc bien beau ce qu'ils font. » Puis tu remarques que tout le temps, les coupeurs se font sur les tempos de musique et tout ça. J'essaierai de faire ça avec OpenShot.
Ouais, ça, c'est une autre histoire.
Vous essayerez de faire ça à OpenShot.
Pourquoi? Parce que moi, je l'avais essayé. C'est quoi? C'est la bande-son qui est pas...
C'est,
pardon.
C'est la... pas assez précis. Et la bande-son, la courbe n'est pas assez bien définie pour savoir où couper. Donc, c'est toujours un à peu près. Et il y a toujours un petit délai, un petit lag. Faut toujours repositionner. J'ai jamais été capable de faire quelque chose qui était parfaitement synchronisé avec OpenShot. Par contre, ce que je dois leur donner, c'est que ça sont beaucoup améliorés au niveau de la ligne de temps et tout ça. C'est beaucoup plus fluide que c'était. Mais il y a beaucoup mieux.
Ah oui, c'est lequel?
Ah oui. Là, après ça, je me suis un peu fâché. Je me suis dit, bon, hey, je peux pas croire, là, on arrive en 2021, 2022. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un outil qui est capable de faire mieux que ça. Donc, je me suis mis à chercher et je suis retourné. Je fais toujours la même recherche. Éditeur non linéaire, Linux, c'est toujours les mêmes qui ressortent. Par contre, il faut les revisiter parce qu'il y en a qui s'améliorent beaucoup. Donc, je me suis dirigé vers, j'en ai déjà parlé dans le passé, et j'avais passé très vite dessus parce que ça ne m'avait pas impressionné. Je suis allé vers FlowBlade. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Je connais pas du tout. J'ai jamais entendu parler.
FlowBlade. Très, très, très bon éditeur vidéo non linéaire. C'est l'outil qui m'a permis de faire beaucoup, beaucoup, plusieurs vidéos en travaillant beaucoup avec la trame de son. Okay? C'est le premier que j'ai vu sur Linux qui me permettait de faire des belles coupures là, sur les trames de son directement sur le beat. Tu vois ta courbe. C'est vraiment là... C'était parfait. La seule affaire avec FlowBlade, c'est la courbe d'apprentissage. Parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres. Puis c'est... Il y a une drôle de logique en arrière là, pour les déplacements et tout ça. Là, c'est vraiment là... c'est ça. La courbe d'apprentissage est assez compliquée. Mais j'ai persisté et j'ai réussi à faire les vidéos de ça. Et je vous dirais, il y a 3 mois de ça, je revenais, c'est l'été passé, ça fait plus que 3 mois de ça. L'été passé, je suis allé faire un road trip, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Écosse au complet. J'ai fait 4700 km en 2 semaines, et j'ai tout filmé, j'ai beaucoup, beaucoup de trames vidéo à découper, tout ça. Et je ne sais pas comment je suis tombé là-dessus, c'est une pub qui s'est affichée d'un éditeur vidéo qui vient dans un app image, vous connaissez ça, les app image?
Mm-hmm.
Oui.
Que j'avais déjà essayé par le passé et que je n'avais vraiment pas aimé et que aujourd'hui je ne jure que par ça. Ça s'appelle Shotcut.
Ah, eux aussi ils ont fait une grosse mise à jour depuis.
C'est incroyable. Incroyable. Là, je vous dis, là, on est rendu au niveau de Adobe Premiere, là. Je vous le dis. C'est pas des farces. C'est incroyable, incroyable, toutes les fonctionnalités qu'il y a là-dedans. OpenShot a l'air d'un jouet à côté. Incroyable. Et facile, facile, facile à utiliser. Écoutez, je fais de l'édition 4K dessus. Là. Puis, tu sais, des choses qui, ça peut sembler niaiseux, là. Comme je dis souvent, il y a beaucoup de gens qui font du montage vidéo, qui font une minute et demie de montage vidéo. Quand tu l'utilises pas intensément, n'importe quel peut répondre à tes besoins. Mais quand tu fais un montage vidéo de 12 à 15 minutes en 4K, là, ça prend quelque chose de bon. Et j'ai souvent parlé que quand on travaille avec la ligne de temps, on utilise des proxys. Des proxys, c'est une version réduite de la vidéo qui nous permet de travailler plus aisément sur la ligne de temps. Et il y a beaucoup de vidéos, beaucoup d'éditeurs qui permettent de le faire, dont OpenShot. Sauf que, exemple, dans OpenShot, quand on veut faire un proxy, on ne sait jamais quand est-ce que le proxy est fait, il est fini, quand est-ce qu'il a été terminé. On n'a aucune idée avec quoi qu'on travaille. Tout est comme caché pour essayer de rendre ça le plus simple possible. Dans Shotcut, tu te sélectionnes toutes tes trames, tu te dis fais-moi un proxy, tu vois exactement quelle vidéo est rendue, à quel pourcentage de proxy. Vraiment, là, c'est un bel outil. Là. C'est incroyable, c'est facile à travailler. J'ai fait au moins une vingtaine de montages vidéo là, de entre 8 et 20 minutes. Là. C'est d'une facilité. C'est vraiment là, c'est mon éditeur de choix pour un bon bout. Et la beauté, c'est que ça vient dans un AppImage. Et le fait que ça vient dans un AppImage, ça fonctionne sur Windows, ça fonctionne sur Mac, ça fonctionne sur Linux et ça fonctionne sur Chrome OS, dont je vais parler tantôt.
OK, tu veux dire que le Fat Pack, le Snap Store aussi, est disponible sur beaucoup de choses. C'est intéressant. Le Shotcut, ouais. Là? Excusez, ah, j'avais un chat dans la gorge.
T'es allé voir?
Oui, j'étais sur le site, puis c'était vraiment... ça me rappelle quelque chose. C'est pas lui que c'était notre... Il y avait un Québécois qu'on connaissait qui travaillait sur ce projet-là. Ça se peut-tu?
Non, c'était pas celui-là. C'était OpenShot? Non, c'était pas OpenShot. C'était... Je me rappelle plus... c'était pas PTV? Quelque chose comme ça?
Ah oui, sur notre auditeur qui travaillait là-dessus.
Ouais.
Il me semble que c'était quelque chose comme ça. PTV, ça se peut-tu? J'essaie de trouver le site.
Ah, je pense que c'est PTV.
Non, c'est pas ce site-là. C'est pas grave. On retrouvera notre réponse un jour, peut-être. Donc, je vais passer à mon prochain. As-tu des questions, Morgane? Ou...
Morgane, il était parti encore.
Morgane, est-ce que tu as des questions? Il est de retour. Oui, est-ce que tu as des questions?
Je pense que c'est mon pilote Wi-Fi là, qui se met à...
Ah, on fait jamais de l'enregistrement sur Wi-Fi, nous.
Ah, vous avez de la chance, moi je suis dans la chambre.
Le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est ça.
Quoi ça?
Jamais faire d'enregistrement audio ou vidéo avec du Wi-Fi.
Ah, mon Dieu, jamais, jamais. Moi, je suis câblé partout.
Ouais.
Mais perte de pied.
Ouais.
Mais du coup, vous m'enverrez vos pistes. Je suis désolé. Du coup, ça fait que de...
C'est correct, on a tout noté de notre côté. Comme on disait que PTV était fait par un ami. Après ça, j'ai dit, j'allais... Je t'avais demandé si t'avais des questions par rapport à l'éditeur vidéo.
Pas tant. Moi, j'ai fait de l'édition vidéo. Là, j'avais testé. J'avais dû faire. C'était une vidéo de 5 minutes, mais c'était dans le cadre d'une demande de fonds, enfin d'une demande de. C'était pas Kickstarter qu'on avait fait. C'était Kiss Kiss Bank Bank là.
Mm-hmm.
Mais du coup, le montage était absolument terrible parce que c'était plein de personnes qui parlaient, mais genre 10 secondes. Et sur une vidéo, enfin, tu sais, c'était pour montrer qu'on a un groupe, une association. Puis on faisait plein de vidéos et c'était vachement un peu dynamique, beaucoup de montage et tout. Et du coup, j'avais testé plusieurs. Il y avait eu, les logiciels étaient pas mal instables. C'était assez difficile. Et à la fin, moi, du coup, j'avais utilisé OpenShot. Mais c'est parce qu'on faisait pas de montage audio. Donc, j'ai pas eu le problème que t'as eu, Patrick. Mais, parce qu'au final, j'ai récupéré le son de la caméra, quoi. Mais voilà, je mettais montage audio avec une musique de fond, Mais voilà, j'avais utilisé OpenShot que j'avais trouvé bien et assez facile à utiliser. Voilà, c'était juste ça, mais c'était il y a 3 ans, 2 ans. Ouais. Et puis elle venait de sortir la nouvelle version, donc elle était assez instable. Et je crois que maintenant ils sont quand même pas mal améliorés dans les écoutes.
Ouais. Ouais.
Moi, je vais avoir une question
oui, pour ce
sujet-là, par contre.
Quoi?
Est-ce que ça prend en charge la carte graphique pour le rendering à la fin ou ça prend une éternité?
Ça dépend de ta carte graphique. Il faut okay. que ce soit une carte graphique reconnue, là, mais oui, oui, il prend en charge les cartes graphiques.
Ok, c'est un autre problème qu'on avait avec Blender et les autres. Là. C'est pour ça que je te posais la question.
Oui, mais ça, là, une fois que je suis rendu à faire le rendu, ça me dérange pas. Moi, souvent, j'appuie sur le bouton, puis je m'en vais faire autre chose. Puis si ça prend 3 heures, ça prend 3 heures. Si ça prend 20 minutes, ça prend 20 minutes, c'est pas grave. Mm-hmm. C'est rare que j'attends après un rendu. Mm-hmm. Surtout que maintenant, avec la ligne de temps qui est tellement performante, c'est que je vois qu'est-ce que c'est censé donner. Tu sais, dans le temps, avec OpenShot puis Blender, ben, la ligne de temps, aussitôt qu'on faisait un effet, c'était tellement saccadé que c'était impossible à voir. Fait qu'il fallait faire le rendu pour voir qu'est-ce que ça donnait.
Ok, ouais, c'est ça. Tu peux essayer de la face 2-3 fois, puis c'était pas le bordel.
C'est ça. Mm-hmm. On n'a plus vraiment ce problème-là à cette heure. Fait que...
Ok, c'est vraiment le fun, ça.
Ouais. Shotcut, là, je vous le dis, là, essayez ça. C'est une merveille, ce petit logiciel-là. Ça n'a pas planté une fois. Pas une fois. Parfait, vraiment, ça. Je suis impressionné.
C'est vraiment cool. J'ai pris note de ça si jamais j'en ai besoin. Donc, on me pose la question. Je vais avoir au moins une solution. Donc, je peux procéder. Morgan est correct?
Oui, tu peux y aller.
OK. Donc, ceux qui se rappellent de moi, je faisais beaucoup aussi de... Ben, j'avais commencé à faire de la réparation de consoles rétro. Donc, j'ai continué à en faire. Je m'étais ramassé avec je sais pas combien de PS1, Super Nintendo et Nintendo chez moi depuis. C'est assez intense. J'en ai réparé plusieurs. J'en ai fourni à plusieurs personnes. C'était quand même cool. Donc, surtout, ce que je m'amusais à faire, c'était d'améliorer l'alimentation 5 volts de la Super Nintendo parce qu'elle était vraiment mauvaise et elle me faisait vraiment du bruit dans le signal composite et vidéo RCA. Donc, en changeant des condensateurs puis le régulateur de tension à l'entrée, je corrigeais le signal vidéo, que ce soit un petit peu plus beau. Comme ça, tu avais moins de bruit à l'écran. Là. Surtout que quand tu branches ça sur une télé HD, tu le vois assez vite que ton signal vidéo en plein centre, il y a une grosse barre bleue dans le noir. Tu sais.
Ouais.
Quand ton image est noire, puis d'un moment donné, oups, t'as une barre qui est comme un bleu marin très foncé, presque noir, puis à côté, c'est noir. Ça devient fatigant quand tu joues à des jeux. Fait que c'était des problèmes d'alimentation que je corrigeais à faire ça. Puis, j'ai acheté aussi sur eBay des 3DS puis des 2DS pour les réparer puis les revendre. C'est drôle. Ça marche un peu. Puis, mais par contre, les frais de transport font que ça coûte tellement cher que c'est difficile d'en trouver un que, ah, OK, lui, je vais l'acheter, ça vaut la peine de le faire. Parce que le temps que tu mets puis les pièces que tu achètes, souvent, ça devient une perte. Je perds pas mon temps avec ça. Mais quand que je tombais sur des cas un peu genre une 3DS à 50$ parce que la personne ne savait pas comment réparer ça, puis que moi, quand je la recevais, je me rendais compte qu'elle était juste sale. Enfin, ça, c'était des choses que je faisais. Là. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que chez moi, je commence à avoir pas mal de petites consoles comme ça que j'avais abandonné avec le temps, que j'ai retrouvé dans mon salon. C'est super le fun de faire des trucs comme ça. C'est faire du recyclage et en même temps de la nostalgie de jeux vidéo rétro, mais avec le matériel officiel. Là. Puis, je me rappelle aussi, j'avais même acheté un jeu vidéo pour le Super Nintendo qui est Final Fantasy 3, puis je l'avais réparé. C'était cool. Parce que il suffisait de rafraîchir les soudures dans la carte pour que le jeu fonctionne. C'est des trucs faciles des fois.
Mm-hmm.
Donc, avec ce point-là, c'est pas mal beaucoup de choses que je fais aussi de ce côté-là. Là. La réparation de trucs comme ça. Oui?
T'as réussi à avoir une petite action replay. Enfin, je sais pas si c'est... pas les action replays, ça s'appelle autrement, mais c'est... tu vois, les trucs de cheat, là, de jeu.
Non.
Non, t'as pas essayé les... J'ai vu récemment, parce que moi j'étais trop jeune pour avoir ça. Mais le principe, ça.
Continue.
Et ouais, le principe, ça me paraissait assez fou de ce que j'ai compris. C'est donc un intermédiaire qui vient modifier le signal en temps réel, là. Ou par exemple, il faisait en sorte que le Pac-Man il aille plus vite ou que le Mario il soit plus lent face aux ennemis. Tu vois, il venait modifier. C'est un truc qui se mettait en intermédiaire entre la console
et la,
la cartouche et qui venait modifier.
Ouais, c'est ça. C'était quoi? Je ne sais plus du nom de ça. Je sais de quoi tu parles, mais la manière que ça fonctionne, c'est simple, c'est que ça va réécrire des plages mémoire, c'est que ça change le jeu. Parce que c'est du langage machine. Hein. Donc, quand tu sais dans l'adresse mémoire où se situe, par exemple, le nombre de vies, fait que tu peux aller réécrire dans la mémoire de la Span, de la Nintendo ou de la Super Nintendo, peu importe, à l'adresse mémoire, le nombre de vies que tu as, puis te donner des vies infinies, par exemple. C'est un peu sur ce principe-là que ça fonctionne. C'est un peu... c'est du hacking à la bonne vieille franquette.
C'est des... Maudit get the hacker.
Ça, c'est sûr. Non, non,
mais tu sais qu'il y avait eu... du coup, Nintendo, ils étaient pas contents qu'on triche avec leur jeu, là, avec leur console. Non, ils ont envoyé la société en procès, là. Et puis ils étaient persuadés de gagner et en fait l'avocat aux États-Unis là il a statué à la surprise générale il a statué bah non c'est parce que ils considéraient que c'est du piratage nanana, ils pirataient leur jeu. Mais non non c'est comme un livre quand tu sautes les pages c'est pareil le jeu du moment que t'altères pas la cartouche que t'altères pas le jeu c'est comme si tu pour ton plaisir perso quoi et depuis enfin ils avaient bien les boules Nintendo de ça. Ils sont très conservateurs et
voilà. Oui, mais tu modifiais pas la console ni le jeu en fait. Donc ça les regardait pas. Mm-hmm.
Et j'ai bien aimé l'analogie, le juge disait bah c'est comme sauter les pages d'un livre.
Exactement.
Mais je trouvais ça bien, ouais, je trouve ça le fun. J'ai pas fait de mise à jour de mes consoles pour aller vers le HD directement. Par contre, j'ai acheté un câble aussi qui est le RAD2X, qui est vendu qui vient d'Angleterre, en fait. Avec le shortage de chips, ça a pris 6 mois avant que je le reçoive. Mais ça permet de doubler la résolution de la Super Nintendo. On passe du 240 au 480. Fait que c'est pratique. Fait que ça
putain,
permet...
du 240 pixels sur une télé, sur une 440... télé 1000K, par exemple.
Ouais, sur une 4K, tu sais. La manière que ça fonctionne, c'est que ton câble, il va faire il va doubler les pixels de façon correcte au niveau analogique. Il va faire la conversion HDMI. Puis ta télé qui reçoit un code à une résolution de 480, ben, il va faire le upscaling. Mm-hmm. Être beaucoup mieux avec le signal vidéo qui a été nettoyé un peu. Ça. Il va monter ça à 720p si je me trompe pas. Fait que sur un panneau à 400 de 4K, c'est quand même pas si pire. Là.
Et pas mais capable de scaler à partir de 240.
Ouais, mais souvent tu vas avoir un lag puis l'upscaling n'est pas super dans la télé elle-même. Quand on fait, mettons, on passe par l'entrée vidéo composite ordinaire. La télé est pas super pour ça, donc il y a des personnes qui font des câbles spéciaux pour aller chercher justement le câble RCA, la connexion RCA de la Super Nintendo. Puis ils vont chercher le meilleur signal vidéo que la Super Nintendo fait déjà d'elle-même. Puis ils rajoutent aussi des circuits de filtre pour pouvoir filtrer le signal vidéo parce que le signal vidéo de la Super Nintendo était vraiment pas beau. Sur nos vieilles télévisions, on le voyait pas, mais quand on faisait du upscaling avec nos télés ordinaires, ça se voyait tout de suite. Donc, ils font un nettoyage un peu aussi en même temps du signal vidéo avant de faire la conversion, de doubler la résolution pour que la télé soit capable de le gérer plus correctement. C'est des détails, là, mais ça fait que tu as une bien meilleure image à l'écran que le signal vidéo original, disons. Là. Mais sans modifier la console elle-même. Fait que c'est des choses comme ça que je me suis amusé à faire aussi dernièrement. Là. Ça fait peut-être 6 mois que j'ai ce câble-là, disons. Donc, c'était vraiment très palpitant.
Ok, je savais pas du tout ce problème de vieille console.
Surtout que la Super Nintendo avait un problème avec la couleur rouge, là. Comme on dit en québécois, en américain, il dit il bleedait, là. Il saignait. Quand tu regardes le rouge, là, il saigne sur les autres pixels à côté.
Ah, ok.
Tu es vraiment. Quand tu regardes le rouge, il va défoncer un petit peu. Mais quand tu regardes vraiment à la télé, tu vas le voir, là, quand tu regardes, mettons, le personnage de Mario Bros. Le rouge, il va débarquer un peu ses autres pixels à côté, puis ça faisait vraiment une espèce d'effet flou bizarre. Puis c'est des corrections comme ça qu'il faut faire. Là. Ça, c'est des. On est rendu avancé à les connaître, ces conseils. Après toutes ces années-là, j'espère qu'on les comprend un peu mieux.
Mais cette. Comment dire? Ouais, enfin, c'est du low-tech par rapport à maintenant. Mais de faire du rétro gaming, bon, je comprends. C'est un peu nostalgique et tout. Ouais. Mais moi, je me suis toujours dit, tu sais, au bout de, enfin, je veux dire, quand t'as fait le tour de la console, de tous les jeux qui sont sortis avec, enfin, tu sais, t'as déjà joué, tu les connais. Au bout d'un moment, le rétro gaming, quand même, t'as fait le tour, quoi.
Mais ça dépend, tu sais, une fois par année, j'aime ça. Moi, faire, par exemple, la légende de Zelda, Link to the Past, là, l'original, là. Une fois de temps en temps, c'est bien de le refaire, puis de le refaire sur une Super Nintendo avec sa manette originale, c'est cool. Là. Ça fait... C'est nostalgie au bout, là, mais qu'est-ce que tu veux? On est rendu à cet âge-là.
On est rendu à cet âge-là.
Façon de parler, là, mais dans la vie humaine, on finit toujours par avoir un bout de nostalgie, puis... C'est des choses qui s'expliquent pas, là, mais il y a des gens qui vont avoir de la nostalgie pour quelque chose de plus récent. Tu sais, dans 20 ou 30 ans, là, les gens vont être nostalgiques de leur Fortnite. Là.
C'est vrai.
Des heures qui ont passé sur Fortnite avec leurs amis. Tu sais, okay.
Je connais pas très bien l'univers des radios ici, mais je sais que, enfin, en France, là, il y a une radio qui s'appelle Nostalgie. Bah, tu vois, elle porte bien son nom. Et en fait, le principe, j'écoutais une interview du patron. En fait, le principe, c'est qu'ils mettent des musiques d'il y a 50 ans. Mais vraiment, ils prennent 50 ans. Et, nous, quand on était jeunes, qu'on écoutait ça, bah, du coup, c'était les vieilles musiques que, bah, nos grands-parents écoutaient, quoi. C'est une radio pour les vieux. Et ils disaient, ben, bah, voilà, du coup, vous, quand vous aurez 60 ans, bah, probablement, vous écouterez Britney Spears sur Nostalgie, quoi.
Ah ouais.
Alors que dans notre imaginaire, c'est la radio, des vieilles chansons.
Tu vas voir que mon prochain point fit avec ça. Et oui, il va bien avec ça.
Ok, ok.
Je m'en vais vers d'autres choses encore plus nostalgiques que ça. Patrick, tu peux passer à ton prochain point.
Eh hey boy, ok.
Si tu veux.
Quoi ça, tu veux? Tu me demandes à moi?
Ouais. Mais ton prochain point, si tu veux.
Ouais. Là, t'es sûr, là, Morgane, t'as rien à raconter, tu veux juste intervenir avec des questions.
Ouais, mais j'ai pas grand-chose. Moi, je m'exprime déjà très régulièrement dans l'apéro de Papa Manchot, donc les auditeurs, ils auront l'habitude.
Okay. Parfait.
Ils vont profiter de nous.
Ok. Ok, je vais parler de... Je pense que vous attendiez un peu à ce que je parle de ça. Je vais vous parler de Chrome OS et mon Chromebook. Donc, est-ce que je suis toujours avec un Chromebook aujourd'hui? Oh que oui!
Ah ouais? T'as pas essayé?
C'est vraiment... Oh.
Est-ce que t'en as plus qu'un? Ça, c'est la question.
J'en avais plus qu'un. J'en ai un qui a... qui est décédé. Qui est fâcheusement décédé. Un matin, il s'allumait plus du tout. Puis, j'ai tout remplacé dedans, la batterie, parce que j'en avais deux, trois du même modèle. Fait que j'ai comme bricolé un peu. Puis les Chromebooks ont la réputation d'être facilement réparables.
Mm-hmm.
D'ailleurs, c'est un des critères. Il faut qu'ils soient facilement réparables. Puis, c'est ça, je l'ai pratiquement tout démonté. C'est vraiment la carte mère qui a sauté. Là. Fait que, t'as acheté une carte mère.
Mm-hmm. C'est encore ton Acer 11, là? Acer Chromebook 11?
Ouais, c'est ça, je l'ai plus, lui est mort.
Ok, ok.
Là, je suis rendu avec un Lenovo Flex 5 que j'ai acheté au mois de mai 2021. Ça va faire 2021 ou 2020? 2020, je crois. Ça va faire 2 ans que je l'ai pratiquement. C'est quand même une très bonne machine. C'est un, j'ai un processeur, un i3 dedans de 10e génération. J'ai 12 gigs de mémoire, je crois. C'est un SSD de...
Attends, 12 gigas de mémoire, ah, de mémoire disque par RAM.
Non, non, de mémoire RAM.
Mais c'est plus un Chromebook avec 12 gigas de mémoire RAM, c'est quasiment autant que mon ordi de travail.
Ouais. C'est ça, et le disque SSD interne, c'est 64 gigaoctets, je crois. Ouais, c'est ça, c'est 64. Mais ça, t'as pas besoin de beaucoup d'espace interne. De toute façon, les Chromebooks, à la base, sont censés avoir une entrée pour une carte SD. Micro SD ou SD régulière. Ils ont pratiquement tous ça. Ils ont tous un port HDMI, ou s'ils n'ont pas un port HDMI grandeur standard, sont obligés d'avoir deux ports USB-C. Donc, moi, le modèle que j'ai deux ports USB-C. Donc, j'ai un dongle si je veux brancher une sortie HDMI. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter là-dessus? Bon, la raison pourquoi aller vers un i3 avec 12 gigs de mémoire? Ben, c'est parce que je peux rouler Linux dessus et je peux rouler Android dessus. Mm-hmm. Et quand on se met à installer Linux, ben, on se dit, ça serait le fun de pouvoir utiliser Audacity pour faire du montage audio, ce serait le fun d'utiliser Calibre pour tous mes livres, ce serait le fun d'utiliser GIMP pour faire du montage photo, et
Shotcut.
Quoi de mieux que d'utiliser Shotcut pour faire du montage vidéo. Et voilà.
Donc, tu fais runner un Linux sur ton Lenovo?
Oui.
En dual boot avec un...
Non,
les applications roulent directement.
OK, là je vous explique où sont rendus les Chromebooks. Chrome OS, à la base, c'est une distribution Linux. OK? Ce que Google ont fait, c'est qu'ils ont intégré le support pour toutes les applications Android. C'est sûr qu'il faut que l'application Android soit développée pour une tablette, là, parce que si c'est développé pour un téléphone, ben, t'as un écran dans le milieu qui ressemble à un téléphone. Mm-hmm. Mais ça supporte, je dirais, 96% d'à peu près toutes les applications Android qui existent. Et ça les supporte très, 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 très bien. Et tu as en plus Linux que tu peux rouler à côté, qui est une Debian, c'est quelle la dernière? Buster, je crois, c'est ça?
Ouais, je sais plus. C'est Debian après, 9.
C'est la Debian la plus récente, elle est à jour. Et c'est pas un dual boot, et c'est pas une VM. C'est... Oui.
Mais du coup, j'ai du mal à comprendre. Donc le Chrome OS, ça, c'est sur Linux, ça, j'ai compris. Oui. Mais du coup, si j'ai un Linux native là, y a pas les trucs open source. Enfin, cette technologie, elle est pas open source là, de pouvoir runner les applications Android sur un Linux. Elle fonctionne sur le Linux, mais elle est pas. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer, mais je veux dire, en gros, t'es obligé d'avoir un Chrome OS pour faire ce que t'es en train de faire. Mm-hmm. Ou je peux le faire aussi avec un Linux.
Non, ça marche
pas. Tu pourrais le faire avec un Linux, mais c'est sûr, ça sera pas supporté comme un Chrome OS.
Mm-hmm. D'accord, il faut que tu installes l'OS et livrer avec l'OS et tout ça. Il n'y a pas des hackers qui ont récupéré les binaires pour les faire fonctionner.
Et tu peux avoir, il y a une version open source de Chrome OS qui existe, qui est Chrome OS Flex, qui est maintenant supportée par Google. Mais les applications Android ne sont pas encore 100% supportées sur cette version-là.
D'accord, donc t'es obligé d'avoir le Chrome OS. Okay.
T'es obligé d'avoir un Chromebook. Toute la philosophie derrière un Chromebook, c'est pas compliqué. Hein? Google se sont dit, on va faire une machine simple, facilement réparable et abordable. Et tu peux en avoir des extrêmement puissantes ou des moyennement puissantes comme qu'est-ce que moi j'ai acheté. Là, ils ont dit, on va s'arranger pour que les applications Android soient supportées et que les applications Linux soient supportées. Mais les applications Linux que tu installes, tu ne l'installes pas sur Chrome OS. Tu l'installes sur une distribution Linux qui roule en parallèle avec Chrome OS.
Ah, d'accord.
Tu l'installes sur une Debian 9. OK?
Et du coup, tu as genre deux processeurs, un ARM et un...
Ça fonctionne sur n'importe quoi. ARM ou Intel, ou même les processeurs, c'est quoi l'autre compagnie? Donc...
AMD.
AMD aussi. Exactement. Mais la beauté de tout ça, là, OK, c'est que Google, avec Chrome OS, ils ont réussi à faire ce que Windows et tout le monde rêve de faire depuis toujours. c'est que si j'installe une application Android, c'est complètement transparent et pour moi, ça fait partie de Chrome OS. Donc, l'icône de l'application apparaît dans les menus de Chrome OS. C'est directement intégré. Si je vais sur la Debian, même à la ligne de commande et que j'installe, exemple, Audacity, Audacity fait partie de Chrome OS. Il fait partie de tout l'environnement de Chrome OS. C'est complètement transparent. Donc, en installant Audacity sur Linux, sur la Linux en parallèle de Chrome OS, tous les disques deviennent partagés et j'ai mon icône de Audacity dans Chrome OS. Je sais pas si tu comprends. Je te donne un exemple bien niaiseux. Ma femme ne connaît pas la ligne de commande Linux, OK? Elle ne sait même pas qu'elle a Linux sur son Chromebook. Moi, j'ai activé Linux et je lui ai activé Calibre qui est pour la bibliothèque des e-books. Mais elle ne le sait pas que ça fonctionne sur Linux. Elle, tout ce qu'elle fait, elle clique sur le menu démarrer de son Chromebook et elle sélectionne Calibre. Et c'est tout. C'est complètement transparent pour elle. C'est comme si c'était intégré dans Chrome OS.
Wow, autant, ça vend du rêve, là, ce que tu dis.
Oh, c'est incroyable, là, je te le dis, là. Ils sont en train de faire la même affaire que les applications Windows.
Avec les applications Windows.
Oui. Donc, tu vas pouvoir rouler les applications Windows nativement sur Chrome OS.
Wow. Ben, ça, c'est effectivement, c'est le rêve, ce truc-là.
C'est. Puis, je te le dis, là, c'est fonctionnel. C'est pas quelque chose de boiteux et de tout croche, là. C'est impressionnant. Donc, au début, les Chromebooks, c'était des machines qui étaient basées sur l'Internet, qui étaient ultra légers, tout ça. C'est encore ça. Mais on peut rouler des applications nativement. Je roule Shotcut, je roule GIMP. Sur Android, j'utilise Telegram. J'utilise Citrix Workspace sur Android pour me connecter sur le VPN de mon travail, pour travailler à distance avec mon Chromebook.
Là, je suis en train de pour m'acheter un PC, sachant que j'ai juste besoin de regarder des films et d'avoir internet. Tu me dis que je peux renaître toutes les applications Android, je peux avoir donc tous mes trucs qui me vont bien.
Ouais.
Je peux avoir toutes mes applis Linux.
Mm-hmm.
Wow.
Mais c'est sûr que si tu prends un processeur ARM de petite puissance et tu as juste 4 gigaoctets de mémoire, ça va fonctionner, mais ça va laguer un peu. Ça prend quand même... Comment je te dirais ça? Plutôt que d'investir 1100$ sur un ordinateur portable qui va rouler plus ou moins bien avec Windows 10 ou Windows 11, je préfère investir 499$ sur une machine Chrome que je sais qui va être performante. Chrome OS est tellement léger, tellement performant, là, c'est incroyable, incroyable. Pour mon travail, là, j'ai un Lenovo, un Carbon, avec un i7 et 16 gigs de mémoire. Et je m'installe là, sur les deux là, et je pars juste Chrome, le navigateur Chrome, en même temps. Là, et sur mon Chromebook, ça ouvre incroyablement plus vite. Tout est optimisé. Tout est optimisé au maximum. Puis le nouveau que j'ai acheté, le Flex 5, il s'appelle un Flex parce que il se convertit en tablette. Il tourne carrément à 360 degrés, se convertit en tablette. Et pour tout ce que tu utilises, quand tu le convertis en tablette, le clavier Android intégré, écoute, c'est vraiment incroyable. Je ne jure que par ça maintenant. Je ne jure que par ça. Puis j'avais déjà commencé quand j'étais sur Blog Linux et ça n'a pas changé, ça ne fait que s'améliorer.
C'est vraiment... Lenovo Flex 514 que tu as, je suis en train d'essayer de googler en même temps.
Oui, c'est ça. Lenovo Chromebooks Flex 5.
Le 5, OK.
Mais il faut que tu mettes Chromebook dedans, là, parce que le Flex 5, ils l'ont aussi dans d'autres modèles. Là.
OK. Et juste, ça prend une licence Chromebook ou Chrome OS, là? Enfin,
pardon? Ça vient avec.
Je veux dire, par exemple, tu veux t'as un problème sur ton ordi, je sais pas, ça t'a démangé d'essayer d'installer je sais pas quoi, tu veux revenir en arrière, tu veux réinstaller Chrome OS. Donc, ça prend une clé de licence, ça prend...
T'as rien à faire.
Tu fais juste faire 2-3 touches, il reset, puis tu remets ton compte.
2-3 touches, il reset, puis il se réinstalle tout, il réinstalle toutes tes applications Android, il réinstalle toutes.
Mm.
Ça m'est arrivé à deux reprises de devoir faire un power wash parce que c'est moi qui avais fait des erreurs. Je m'étais connecté sur le dépôt testing de Chrome OS et ça avait mal été. Et là, j'en ai eu des sueurs froides et j'ai dit, bon, faut que je fasse... Eux autres, ils appellent ça un power wash. C'est qu'ils s'auto-formatent et ils se réinstallent au complet. Ça a pris 20 minutes, tout était réinstallé. Et la beauté des Chromebooks aussi, c'est que c'est pour ça que c'est tellement populaire aussi au niveau des écoles. C'est le genre d'ordinateur que tu fournis à des étudiants, tu leur fournis des petits ordinateurs avec des processeurs ARM qui sont vraiment pas chers, qui coûtent 150-200$. Quand il est brisé, c'est pas grave, tu y en donnes un autre et aussitôt qu'il se connecte, tout se réinstalle automatiquement. Donc, la gestion de la machine en tant que telle, t'as même pas besoin de t'en occuper, t'as pas besoin de prendre de backup. Tout se prend backup automatique.
C'est impressionnant, je connaissais pas du tout, j'ai jamais testé, j'avais jamais entendu parler, bah, c'était toi, là, il y a 2 ans par toi, là, que c'était les premiers, mais bon, moi, un petit ordi où je pouvais faire qu'Internet, mais là, ça devient impressionnant.
Alors, ça devient des machines de travail, là, vraiment intéressantes, là.
Ok, je suis en train de googler, il y a même des écrans 15 pouces, en version 15 pouces qui existent et tout ça, waouh, waouh, waouh. Là, je crois que tu es en train d'influencer mon prochain achat, hein, je te le dis.
En tout cas, moi, tout le monde dans mon entourage à qui je leur ai fait une démonstration, ils sont tous rendus avec des Chromebooks. Premièrement, tu ouvres le coup. Tu gères ça comme un téléphone. Tu ne l'éteins jamais. Parce que la batterie, en partant, dure entre 10 et 15 heures. Fait que moi, il est toujours allumé comme mon téléphone. J'ouvre le couvert, c'est instantané. J'ai accès à toutes mes choses. Je ferme le couvert, c'est... Et que j'écoute, des fois j'écoute des vidéos là. Quand je prends un vol d'avion là, puis que j'en ai pour 6 heures, 7 heures, là, j'écoute des vidéos en continu, puis ça utilise à peine 50% de la batterie.
Oh, parce que moi, j'ai pour le boulot là, j'ai le Mac M1 là, c'est les nouveaux Mac, les fameuses puces M1.
Ouais.
Pareil, ça m'a halluciné. Je peux passer la journée en réunion Teams, 8 heures. À la fin, il me reste encore de la batterie.
Oui. Oui.
Waouh, c'est un confort d'utilisation, ça, quand t'as une autonomie. Waouh. Bon, anyway. Ok, et Chrome. Et est-ce qu'on peut installer un Chrome OS sur un Linux par exemple, là, j'ai un ordi à côté. Je pourrais installer.
Tu peux pas l'installer sur Linux. Tu peux pas l'installer sur Linux, mais tu peux l'installer sur un ordinateur. Fais une recherche pour Chrome OS Flex.
Chrome OS Flex. Ah oui, c'est la version open source.
C'est ça.
Oui, ok, d'accord. Okay, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure?
Mais comme je te dis, cette version open source-là, c'est pas toute qui est supportée dessus. Mais ça s'en vient. C'est l'ancien, je me rappelle plus comment ça s'appelait, là, la compagnie qui faisait ça. Là. C'était Cloud quelque chose, Cloud Ready, mais en tout cas, une affaire
ouais,
comme ça.
Oui, je l'avais testé de mon côté, je me rappelle, oui.
Puis ils ont assez bien évolué que finalement Google les ont rachetés et Google, c'est eux autres maintenant qui supportent Chrome OS Flex. Fait que ça va avancer, là. Ils vont vraiment commencer à supporter les applications Android. L'idée originale, c'est que Google avait le contrôle sur les appareils. Ils s'assuraient que les appareils étaient compatibles. Un peu la philosophie Mac, un peu. Tu sais, quand tu contrôles le hardware, tu contrôles tout, tu es assuré que tes machines vont bien fonctionner. Là, ils ont décidé d'ouvrir plus large, puis ils vont essayer de faire fonctionner sur n'importe quoi.
Ça va être une révolution, ce machin.
Oui, parce que là, en entreprise, là, tous les vieux portables de l'équipement qui est désuet, tu vas installer Chrome OS, ça va devenir une bombe rapide, puis tu vas pouvoir utiliser toute l'infrastructure de l'entreprise qui gère les machines Chrome OS.
Ah, je vois sur leur site, hein, ils ont la version entreprise où tu peux. Ouais, je vois. Ok. Mais écoute, je vais give a shot. En plus, l'interface a l'air sympa. Je retrouve un peu de la philosophie d'Ipin là avec leur doc au centre et tout.
Exactement.
Ça a l'air assez sympa. Ok. Bon. Et oui, tu jures que par ça, je crois.
Mais c'est parce que moi, en plus, tout le monde que je supporte dans mon entourage, c'était tous des gens que j'avais migré vers Linux. Puis, j'avais pas de problème avec Linux en tant que tel. J'avais des problèmes, les gens comprenaient pas qu'il fallait qu'ils fassent les mises à jour, comprenaient pas. C'est ça. Chrome OS, c'est pas compliqué. La mise à jour, elle s'installe. C'est la journée que tu l'éteins et tu le redémarres, ben, automatiquement, la mise à jour s'installe. Fait que tu t'occupes pas de ça, ça se fait tout seul.
Ouais, alors ça, j'ai un problème, c'est Linux, Windows, ils font ça aussi là. Et tu travailles, ben là, quand tu as du débit, ça va, mais par exemple, tu es un peu en débit limité, ben, d'un coup, tu fais un
Non, j'ai pas dit qu'il force un redémarrage. J'ai dit la journée que toi, tu redémarres, ça s'installe.
Ouais, ouais.
Même si tu redémarres après 3 mois.
Ouais, mais est-ce que, par exemple, t'es en call teams, là, t'as le machin, puis t'as les mises à jour qui se démarrent. Bah, ta baisse de débit, t'arrives plus à...
Non.
Ça se met à saccader, tout ça. Non, ça arrive, c'est pas
le choix. Non, ça arrive pas, ça arrivera jamais. Ça va, la mise à jour va se télécharger seulement quand il est branché, qui est en mode recharge. Et que, exemple, qui est en sleep mode ou il est dans un état où il n'est pas utilisé. Écoute, c'est pas Windows.
Ah, ils l'ont, ouais, c'est ils l'ont fait de manière intelligente. Ouais, ok, je vois. Écoute, c'est très prometteur cette chose-là.
Ouais.
Et là, je vois le Lenovo, là. Toi, tu as le Flex 5, il est en 13 pouces.
Ouais. C'est celui-là.
C'est, avec 800 pièces, enfin, c'est 730. Ouais, avec les taxes, ça va être 800 pièces. Tu trouves pas que c'est un peu petit, le 13 pouces?
Non, pas du tout. J'avais 11 pouces avant. Faut pas oublier que moi, c'est un appareil que j'utilise beaucoup, beaucoup dans mes déplacements, là. Moi, c'est beaucoup dans l'avion, c'est dans mon pack sac, c'est partout où ce qu'on va, où on se déplace, ma femme. Puis moi, j'ai toujours mon Chromebook avec moi. Fait que pour moi, 15 pouces, c'était trop. Je trouve ça trop gros. C'est plus lourd. C'est ça. Avant, j'avais 11 pouces. Là, je suis rendu avec le 14 pouces. Le 13.96, je pense. Je sais pas trop quoi.
Okay. Et le fait de changer l'écran, là, par exemple, si je peux, parce que moi, je pense que ma taille minimum serait le 15 pouces. Le fait de changer l'écran, je suppose que ça va augmenter la consommation.
Non, je pense pas. La batterie est en conséquence.
Ah, la batterie, ok. J'ai en conséquence. Ok. Et toi, Sandrine, t'avais l'air de bien connaître aussi Chrome OS, là? En tout cas de.
Ben, moi, j'avais essayé beaucoup Cloud Ready dans le temps, là. Donc, je connais les principes. Je l'avais installé sur plusieurs postes. C'est l'ancêtre de Chrome OS Flex, là. Donc, ça fonctionnait très bien. Moi, j'aimais ça, surtout sur une petite machine que j'avais avec un petit SSD. Je bootais ça fonctionnait toujours. J'allais sur Internet, j'allais sur YouTube, je faisais du Facebook, mes affaires. Mais j'avais pas accès dans le temps à Android ni à Linux sur ça. Donc moi, je me suis pas rendu à ça encore.
OK. Et ton prochain achat, tu penses pas? Il t'a pas convaincu, là, Patrick?
Ça commence à me chicoter pas mal, là, mais présentement, de toute façon, la seule chose que j'utilise, c'est l'ordinateur du bureau puis mon vieux laptop. Je fais pas grand-chose chez moi. Sur un ordinateur, disons. puis le bureau m'a fourni un Lenovo T480, quelque chose. Là. Donc, ça fait amplement le travail pour le travail. Puis pour chez moi, ben j'utilise mon vieux laptop avec Linux, avec Arch.
mais c'est exactement ça. Et c'est, mm-hmm. tu mets le point, c'est qu'un ordi, bah moi je trouve en tout cas, dans mes usages, parce que t'es gamer ou quoi, mais un ordi, à part de la consultation, j'ai de moins en moins de, j'ai de moins en moins d'intérêt à avoir un ordi, enfin, l'ordinateur en tant que tel, en tant qu'appareil.
Exactement.
Au fur et à mesure des années, j'en perds l'usage, quoi. Non, ça me sert comme truc de film pour regarder un film sur ma table de chevet
pour consommer
ou consulter une info consommer du média, exactement. Des choses comme ça.
Parce que là, j'ai l'ordinateur du travail, mais le mien, ça fait pas grand-chose. De toute façon, maintenant, on a accès à YouTube sur la télévision, sur notre téléphone, on a accès à Internet sur tout. Donc, même des fois, je fais des réparations d'un appareil. J'ouvre mon cellulaire, je fais une recherche sur Google, sur DuckDuckGo, mettons. Je trouve le circuit, mais mon téléphone est quand même assez gros, c'est quasiment une tablette, donc... Je regarde l'information que je cherche, puis mon PC est fermé. Pendant ce temps-là.
Exactement.
C'est bien rare que je m'assoie devant mon ordinateur. Maintenant, je joue pas sur mon ordinateur. Donc, ça aide.
Exactement.
Mais c'est parce que des fois, tu sais, moi, je me prends, par exemple, là, de regarder YouTube sur mon téléphone plutôt que sur l'ordi, quoi, parce que j'ai la flemme d'ouvrir l'ordi, chercher l'ordi. Mais c'est ça pour dire que, du coup, cette idée-là de venir apporter tout l'univers téléphone sur ton ordi, c'est game changer. Hein.
Mm-hmm. Exactement.
D'amener Android et Linux sur la même machine, c'est quand même hot, faut le dire.
Oui.
C'est tentant. Ça, je vais y penser, mon prochain achat d'ordinateur, je pense.
Et t'as une idée du business model derrière, là, quand t'achètes un Chromebook, c'est à la Windows, t'as un pourcentage qui revient à Google sur la vente de l'OS?
J'ai aucune idée.
Bon, sûrement, okay. Mais sûrement moins.
Mais à la base, les Chromebooks, à moins que tu veuilles un Chromebook puissant, c'est des machines abordables. C'est 400$ et moins. Là. Moi, le Chromebook à ma femme, je pense que j'ai payé ça 170$. Ça fait 3 ans et demi de ça. Puis il fonctionne encore très, très bien. Mm-hmm. C'est la philosophie derrière. Moi, mon Chromebook, c'est sûr, il est plus puissant. Et je l'ai acheté quand il venait de sortir. Donc, je l'ai eu... De souvenir, je crois que je l'ai payé 539$, plus des taxes, là, comme de raison. Mais il était vraiment pas cher. Il est plus cher que ça aujourd'hui. Là.
Tu veux dire le même modèle à
ouais.
Prix du prix avec le, ouais, les composants ouais. qui augmentent? Ouais.
Parce que quand j'ai commandé mon Flex 5, il était même pas disponible au Canada. Puis au travers Amazon, j'ai réussi à l'avoir en le faisant venir des États-Unis.
What?
Sauf que pour la garantie, c'est plus compliqué, mais là, de toute façon, j'ai pas eu de trouble avec. Là, fait que ça va faire bientôt 2 ans. Là, fait que...
ah, mais c'était un bon achat, non?
Oui. Alors, Sandrine, tu as autre chose à nous raconter?
Oui.
À moins que Morgane avait d'autres questions.
Non, tu m'as pas mal convaincu là. Je suis même en train de magasiner, je suis en train de taper Chromebook High Performance.
Ils vont voir le site si tu veux savoir quoi acheter, là, parce qu'il y en a plusieurs modèles, il y a des HP, il y a tout ça. Il y a vraiment des marques qui sont meilleures que d'autres. Va voir sur le site et la chaîne YouTube Chrome Unboxed, tout d'un mot.
Unboxed comme unboxing?
Ouais, c'est ça. Unboxed, mais au passé, là. Chrome Unboxed. C'est la référence. C'est eux autres qui m'ont vendu à l'idée du Flex 5. Là.
OK. Chrome Unboxed, ouais, il y a un site. Okay.
Il y a un site, puis leur chaîne YouTube, ils ont des vidéos vraiment, vraiment, où ils font des démonstrations de chacun des Chromebooks. Ils donnent les plus et les moins. C'est jamais des vidéos très, très longues. Ça. C'est des vidéos de 5-10 minutes, là.
Effectivement, il y a pas mal de reviews. Ouais, ils sont Mac et Google, quand même. Google partout. Ok, ok.
Ah, ben ça, c'est sûr. On s'en sort plus aujourd'hui. Donc, c'est correct que je peux parler maintenant de mon autre point?
Oui, vas-y.
Parfait.
Oui.
On va retourner dans la nostalgie et dans la réparation de vieux appareils. Donc, mais je vais faire une petite mise en situation. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à Trois-Rivières voir une de mes amies passer un week-end là-bas pour changer d'air un peu. Puis j'ai accepté. Puis c'est une amie qui fait beaucoup d'électronique, comme moi un peu. Donc quand je suis arrivé chez elle, on a parlé d'électronique, elle m'a montré son nouvelle station de travail dans sa nouvelle maison qu'elle s'est achetée. Puis on a pris de la bière et tout. Finalement, je me suis rendu compte qu'elle avait 2 tables tournantes
mm-hmm.
chez elle, puis on s'est mis à écouter de la musique.
Attends, une table tournante, c'est un truc pour mixer?
Un tourne-disque.
Ok, ouais.
Pour jouer les vinyles.
Ouais, les vinyles, ok.
Donc, j'ai dit, hey, moi, ça me prend ça chez nous. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu ça, puis on a trippé. C'était tellement drôle que... On a même fait exprès parce que chez elle, elle a plein d'équipements des années 80, genre. Fait que on avait fait une photo de moi assis sur le divan avec des vieilles bières dans les vieilles bouteilles des années 80. Le format des bières au Québec n'était pas le même des années 80 qu'aujourd'hui. C'était les bouteilles un peu plus bombées comparativement aux bouteilles d'aujourd'hui qui sont plus élancées. Puis j'avais des bouteilles de bière comme ça, j'avais des disques qui traînaient sur la table, puis il y avait le tourne-disque à côté de moi parce qu'on écoutait de la musique. Puis on aurait juré que j'étais des années 80. Il y avait même un appareil pour lire les je sais même pas comment ça s'appelle, mon Dieu. Dans les films, on voit ça, les deux rouleaux de films. Mais pour jouer de la musique.
Des Super 8?
Ça, c'était pas de la musique, c'était vraiment musique, juste l'audio.
Un reel-to-reel.
Ouais, c'est ça.
Un tape, un reel-to-reel.
Ouais, j'avais même ça à côté de moi, là, genre. Là.
OK.
C'était vraiment genre très drôle. Puis en plus, il y avait aussi une thématique où est-ce que j'avais mis des vieux disques de Passepartout, qui est une émission pour enfants que j'écoutais quand j'étais jeune. Et j'avais même un petit, une petite peluche sur moi que c'était le personnage Biscuit dans Passepartout. En tout cas, il y avait une grosse thématique. Ça avait fait jaser sur Internet. C'était genre très drôle. Parce que quand on a pris la photo, il y a même des gens qui m'ont dit « Sandrine, il te manquait juste le paquet de cigarettes dans ton t-shirt, sur ton épaule. »
Ouais.
Pour faire un peu comme à l'époque au Québec, comment ça se passait. Donc, ouais. C'est vraiment genre très drôle. Puis en retournant chez moi, j'ai dit « Ça me prend une table tournante. Faut que je me rachète ça. C'est trop drôle. » Finalement, quand j'ai commencé à regarder les prix, c'était quand même assez exagéré, les œufs. Puis j'ai commencé à magasiner sur Facebook Market pour voir s'il n'y avait pas des tables tournantes usagées, brisées, que je pouvais essayer de réparer. Puis en même temps, je me suis dit, bon, ben s'il faut que je les répare, donc je dois apprendre comment ça se répare. Fait qu'en l'espace de deux semaines, j'ai trouvé une table tournante usagé sur Facebook qui était brisé. Je l'ai acheté, je l'ai réparé et elle fonctionne.
Bon.
C'est une vieille table. C'est une.
C'était quoi le défect? Le défaut,
c'était pas grand chose parce que la personne qui l'avait avant, c'était son père, puis elle semblait bien s'en occuper. Je m'attendais à avoir des problèmes avec la graisse qui est utilisée pour le roulement à l'intérieur. Parce qu'avec les années, quand les tables ont 20, 30 ou 40 ans, la graisse qui était utilisée pour utiliser le bon roulement des bearings et tout ça, ont tendance à devenir une colle ou un gros pain. Mais elle était correcte. Puis, tout ce que j'ai fallu à faire, c'est changer la courroie d'entraînement qui était en caoutchouc, qui elle, était finie. Puis, j'ai changé la cartouche et le stylus aussi.
OK.
Et ça m'a coûté une centaine de dollars à la réparer pour avoir une bonne cartouche avec un bon stylus. Puis, moi, quand j'étais jeune, la modèle de table que j'avais, c'était une table cheap avec un ressort. Donc, avec un seul type d'aiguille qui était configuré en sens que ta table, c'était ça. C'était pas une table professionnelle comme j'ai maintenant. Donc, il a fallu que j'apprenne aussi à calibrer correctement ma nouvelle cartouche avec mon aiguille, avec le bras et tout. Mais c'est toutes des choses que j'ai appris en l'espace de même pas une semaine ou deux, à regarder des vidéos sur YouTube sur comment ça fonctionne, puis comment les réparer, parce que c'est vraiment pas très compliqué une table tournante.
Non, vraiment pas.
C'est low-tech, ouais. C'est
au assez final, simple.
C'est comment on appelle ça là? C'est une tête qui vient lire ton disque, quoi. Qui,
ouais.
Qui vient lire la gravure. Enfin, je sais pas comment elle bougeait au niveau de la gravure et ça.
Ouais, c'est très intéressant, mais en même temps, je me suis mis à me poser des questions. Parce que là, je me suis dit, je vais acheter mon premier disque. Que je m'étais acheté en CD quand j'étais jeune, à mon adolescence. Je l'ai racheté en version disque 33 tours. Puis, ça s'est mis à jouer. Voyons, il me semble que j'ai manque de son d'un coup. Manque de son, j'étais pas sûr quand je faisais mes tests. Puis là, finalement, je me suis rendu compte que c'est parce que j'étais trop proche d'un haut-parleur et trop loin d'un autre. Finalement, quand je me suis centré, je dis, oh, ça joue vraiment en stéréo, cette affaire-là. Là, je me suis dit, OK. Comment est-ce qu'un disque peut bien jouer en stéréo? C'est des questions que j'ai appris à me... J'ai cherché les réponses, puis je les ai trouvées, puis c'est super intéressant.
Vas-y.
C'est assez compliqué à expliquer dans un podcast. Je vais essayer. L'aiguille, en fait, il y a juste une aiguille. Mais les monos, eux autres, ce qu'ils font, les aiguilles mono, c'est que tu as juste un détecteur qui vient chercher le déplacement de l'aiguille de haut en bas. Si j'ai bien compris. Puis, les aiguilles qui sont en stéréo, ils vont pas lire directement la rainure par en haut, mais tu vas avoir deux détecteurs en 45 degrés de chaque côté. Puis elle va pouvoir se déplacer de gauche à droite.
Mais du coup, on est d'accord, du coup, c'est le CD qui doit être gravé en stéréo. C'est ouais. pas.
La tête doit être différente. La tête doit être configurée en conséquence. Parce que sinon, tu vas juste l'entendre en mono.
OK.
Mais la tête est vraiment. C'est du, derrière l'aiguille, tu vas avoir deux détecteurs. Parce que dans le fond, là, c'est simple. La manière que ça fonctionne, quand on grave un truc comme ça, c'est que. On parle, ça va faire une vibration sur une certaine membrane. Puis cette membrane-là va faire vibrer une aiguille qui, elle, va laisser des traces dans le disque. On y va simplement, dans le fond. Puis, pour faire l'inverse, c'est que ça prend, faut que l'aiguille lise ces vibrations-là qui sont dans la rainure, puis les retransforme en électricité qui font qu'on les entend dans les haut-parleurs. Mais pour avoir gauche et droite, ben, on a justement deux détecteurs qui sont à 45 degrés qui vont détecter à gauche et à droite les vibrations. C'est vraiment super fucké, mais ça m'impressionne que ça marche.
Mm-hmm. c'est surprenant, ça a marché longtemps aussi.
Ouais, hein? Puis ça m'a permis de fouiller beaucoup sur le sujet parce que mon amie aussi, elle avait un phonographe dans sa maison.
Oh mon Dieu, OK.
Ouais, qui marche à manivelle et tout, là. Donc,
fait que j'ai là, vraiment... c'est encore plus nostalgique. Hein?
Oh, oui, là, ça m'a permis d'apprendre toute l'évolution puis de me renseigner sur tous les types de ce qui s'est passé dans l'histoire, que ce que je connaissais pas quand j'étais jeune, quand c'est arrivé. Là. Toute l'histoire entre, je ne sais plus les noms des compagnies, c'était entre Columbia et RCA quand ils se battaient.
RCA, Victor.
Ouais, Victor, quand ils se battaient entre le pourquoi qu'on a des 45 tours et on a des 33 tours, toute cette histoire-là, là, pendant la guerre et avant la guerre et tout ça, mm-hmm. comment c'est devenu au monde, là. C'est vraiment fascinant de tout chercher cette histoire-là. Puis, là, je me suis mis à acheter plein de disques, ça fait que j'en ai plein. Façon de parler, j'en ai peut-être 10-12 depuis un mois que j'ai commencé, c'est quand même pas si pire. Puis, j'ai fait le tour des friperies dans mon coin et un peu partout. Il y en a partout qui vendent des disques qui ne savent même pas la valeur que ça vaut, donc c'est super le fun.
Renaissance.
Ah. Je suis allé à Renaissance, je suis allé à l'Armée du Salut aussi. Puis, j'ai une place à Verdun aussi qui vend des disques et des livres usagés, fait que c'est super le fun de feuilleter dans tout ça et de chercher des disques.
Je te coupe juste dans ton explication, mais choc culturel. Moi, d'où je venais, enfin les friperies. En fait, j'ai jamais été dans une friperie avant d'être à Montréal.
Ah oui.
Mais ici, c'est super populaire. Il y en a plein.
Bah oui.
Plusieurs, en tout cas, dans plusieurs hein, machins. Et il y a plein de gens qui y vont et tout. Et c'est waouh. C'est. Je trouve ça trop cool.
Oui. Je trouve ça le fun, mais j'y vais toutes les semaines. Des fois, je regarde dans les friperies, ils ont même des trucs électroniques. Là, je suis en train de chercher un vieux lecteur CD, des trucs comme ça. Là. J'ai des CD chez moi, mais j'ai même plus de lecteur pour les écouter.
Ah!
C'est quand même assez spécial. Puis, dans mes recherches, il y a beaucoup de Français qui vont connaître de quoi je vais parler. Pendant que je cherchais des disques, ben là, évidemment, Google t'entend parler des disques, Facebook t'entend parler des disques, donc tu te mets à recevoir plein de publicités.
Ouais.
Évidemment. Et finalement, j'ai eu une publicité qui m'a servi. Pendant que j'étais sur Facebook, j'ai vu une pub d'un magasin de disques pas loin de chez moi qui vendait le disque de la bande sonore de la série télé Les Mystérieuses Cités d'Or.
Oui! Oui! Évidemment!
Eh oui! Tu connais ça, toi?
Eh oui, je regardais quand j'étais petit. Ben, la Cité vois? D'Or.
Ben, c'est ça. Fait que, puis en plus, c'est la version photo. Donc, le vinyle, c'est une photo.
OK.
C'est vraiment une image de la série télé qu'il y a de chaque côté.
Vous aviez pas... Si, mais ça devait bien exister. Vous avez bien dû voir ça. Là.
Ben
enfin,
oui.
Vous êtes peut-être trop nostalgique. Enfin...
Ben, moi, j'écoutais ça. J'écoutais la première saison quand j'avais...
Quand t'étais jeune.
Quand j'étais jeune, les années 80.
Est-ce que c'est les années 80, ouais, si on ouais, regardait... Ouais.
Puis, ils ont sorti de nouvelles saisons, hein, pas ça.
Sérieux?
Ils ont fait la saison 1 des années 80, mais là, il y a la saison 2 et 3 qui ont été faits en collaboration avec le Québec et la France, si je me trompe pas. Puis, wow. Il y a une saison 4 qui s'en vient.
Putain, Eva.
Parce qu'il y a 5 cités d'or, mais on en avait juste trouvé une. Donc, il en reste quatre autres à trouver.
OK. Bon, ben, tu vas faire de la friperie, alors.
Fait que j'ai ce beau disque-là. C'est vraiment, genre, très intense. Mais c'est vraiment bizarre parce que dans ma mémoire, quand j'écoutais des disques, ça sonnait le cul. Là, ça n'avait pas de sens, là.
Ça sonne. Il n'y a rien qui sonne bien comme un vinyle.
Ça griche. Tu veux dire le défaut de. Parce qu'il y a quand même des défauts musicaux sur les vinyles qui sont.
Oui, mais en même temps, quand ils sont neufs, non. Puis quand ils sont propres, non. C'est ça qu'on avait. Moi, quand j'étais jeune, j'écoutais ça. Moi, je faisais n'importe quoi avec ça, puis ça jouait vraiment pas bon. Mais finalement, aujourd'hui. Quand tu nettoies tes disques, tu t'assures qu'il n'y a pas d'électricité statique sur ton installation, que tu nettoies ton équipement quand ça part, là, ça joue très vite.
Moi, j'ai toujours adoré le son d'un vinyle. C'est un son tellement chaud, les basses sont tellement plus profondes. C'est pas comparable. Moi, je viens de cette époque-là, hein.
Mm-hmm.
Fait que. Puis tu vois, j'ai bien connu ça.
J'ai un disque de Saturday Night Fever ici, original. Et il fonctionne très bien. Avec les Bee Gees. Et il fonctionne très bien. Et il ne craque pas. C'est vraiment bon.
Et juste, désolé, je reviens vite fait sur les friperies.
Oui.
Patrick, toi, ça existe les friperies? Enfin, c'est aussi populaire ou c'est vraiment juste Montréal où il y en a autant?
Il y en a partout. Il y en a dans mon coin, à Valleyfield, partout. C'est populaire partout.
Mm-hmm. D'accord, ok.
Tu peux voilà. Aller,
ça fait longtemps que ça existe. Ça fait pas si longtemps que c'est populaire, ça. C'est beaucoup tendance recyclage et réutiliser tout ça là, depuis, je dirais, 5 ans, 6 ans que c'est devenu très populaire, les friperies.
Là. Ouais, mais moi, j'irais toujours vérifier pareil parce que tu trouves des vieux CD, ouais. Des vieux VHS, des vieux CD, des vêtements. Des fois, une paire de jeans, c'est une paire de jeans. Là.
Ouais.
Si tu en trouves une là à 5$, tant mieux. Là.
Ah, c'est cool. Et du coup, je suis désolé, je te coupe. Enfin, non, je vais te laisser continuer. Mais il y a un truc que t'as dit aussi, que tu, il y a deux semaines, tu savais, enfin, en deux semaines, t'as appris à réparer carrément, à restaurer un lecteur vinyle et tout ça.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui m'hallucine un peu, bah, d'où l'abonnement YouTube Premium, je suppose, mais. Non, mais aujourd'hui, c'est hallucinant la quantité d'informations que tu peux trouver. Enfin, ouais. Tu peux t'auto-former sur un nombre de sujets avec YouTube. Enfin, tu sais, à une époque, ça prenait un livre, il fallait savoir faire preuve d'abstraction, c'était un peu compliqué. Et je trouve qu'aujourd'hui, avec YouTube, ben, t'as un problème de plomberie, tu peux regarder des vidéos, et bon, évidemment, il faut un peu de recul, il faut un peu d'expérience, mais
oui.
Avec un peu de patience et de mise en pratique, tu peux apprendre pas mal de choses quand même. Tu peux vite devenir indépendant sur pas mal de choses.
Oui, oui.
Et voilà, et du coup, enfin bon, ça c'est ma réaction. Et je voulais savoir la chaîne que tu pourrais recommander là pour quelqu'un qui voudrait faire comme toi, se mettre au vinyle, au moins les keywords que tu as tapé, ou si tu as une chaîne à recommander.
Ah, mais il n'y en a pas vraiment parce que ça c'est assez. C'est rare sur YouTube, mais il n'y a pas grand-chose dans une table tournante, donc c'est facile de faire une recherche juste fixe turntable, puis tu vas en trouver. Là.
Ça se dit turntable en anglais?
Ouais.
Ah, okay.
J'ai pas
cherché. C'est souvent comme ça, par là.
Ouais. Je suis pas sûr. Ça
moi aussi, j'ai tendance à toujours chercher en anglais sur YouTube.
Ouais. Moi toujours aussi, parce que sinon... Quand on a une population de 330 millions d'habitants à côté qui parlent en anglais, puis qu'on est juste 8 millions ici, c'est sûr, quand on cherche une réponse à une question, on a plus de chances de trouver notre réponse.
Ouais.
Chez les Américains et les Canadiens anglais que nous ici.
Ouais.
Puis les Français sont pas encore rendus beaucoup là-dedans.
Ben, y en a, mais par défaut, YouTube, c'est pas ça qui va nous servir comme résultat.
Mm-hmm.
Vu qu'on est en Amérique du Nord, fait qu'il nous sert tout ce qui vient de l'Amérique du Nord en premier. Là.
Mais je suis certain que si on fait une recherche table tournante, réparation, on peut trouver des trucs. Là, parce que c'est vraiment pas...
platine vinyle.
Au platine, ouais.
Une platine.
Oui.
Mais ouais. Vous avez complètement d'accord. Je suis assez d'accord avec vous. Et
maintenant que t'es de notre côté de l'océan,
je m'y mette.
Compte un peu plus comment c'est ici.
Ouais, je commence à me rendre compte. Mais en fait, moi, je me rappelle quand j'étais quand je travaillais dans une entreprise là, on avait engagé une Américaine et en fait, ils étaient étonnés. Ils étaient étonnés que notre logiciel ne soit pas fourni avec un mode d'emploi. Parce que apparemment, elle était vraiment choquée et c'était vraiment dans la culture américaine de s'auto-former, de prendre, de lire, d'aller chercher de la ressource, machin. Alors que nous, c'est pas tout à fait comme ça la culture. Et du coup, ils ont décidé de mettre de faire toute une phase de documentation et en anglais et tout ça. Mais ça, pour moi, c'est une explication pourquoi sur YouTube, t'as beaucoup plus de contenu anglophone. Pour ce genre de choses, justement, que le contenu français. Bon, évidemment, il y a plus de population aussi, ça explique, mais t'as aussi, c'est un peu culturel quand même.
Mais je viens de faire une recherche, là, réparer platine vinyle, il y en a beaucoup.
Ça doit.
Il y en a?
Oui, il y en a beaucoup.
Mais non, c'est des sujets intéressants, c'est des choses qui sont le fun, parce que je suis certaine que parmi nos auditeurs, il y a beaucoup de gens qui ont des disques qui traînent, puis qui savent pas quoi en faire et qui fonctionnent encore très bien.
Ça, c'est faut que tu fasses le tour des ventes de garage au printemps, Sandrine.
Oui, ça, je vais.
Tu vas en trouver en masse.
Je vais essayer d'aller voir ça. Bien, ça devrait bientôt commencer à Montréal, ça, des ventes.
Ouais.
Désolé, je passe aussi hors sujet, mais je profite d'avoir des vrais Québécois avec moi pour poser des questions. Il y a alors je sais pas si ça se dirait comme ça, mais il y a des bourses au ski, bourses au vélo, tu sais, qui font avant la saison du ski ou après la saison du ski ou des vélos. Ça existe, ça, ici? Enfin, quelque chose, par exemple, moi, je me suis acheté un vélo, mais je voudrais... c'est comme un vide-grenier, quoi, mais spécialisé, où tous les gens vont mettre en vente leur vélo, leur ski, qu'ils ont fini de la saison.
Non,
ça n'existe pas. Ça va être plus, comme on expliquait tantôt, des ventes trottoirs, où les gens vont sortir les choses qui ne se servent plus.
C'est quand, ça?
Ça,
habituellement, c'est la première longue fin de semaine du mois de mai, je crois qu'il est la fête, je me rappelle plus c'est la fête de quoi. C'est très réglementé au Québec. Avant, on pouvait faire ça quand on voulait. Puis là, c'est devenu un peu la folie là, que tout le monde faisait de n'importe quoi, n'importe quand. Fait que les municipalités ont réglementé que c'est deux fois par année qu'on peut faire, on appelle ça les ventes de garage.
Mm-hmm.
Les gens vident leur garage puis ils vendent le vieux truc.
Ça, à l'automne et au printemps.
Allô?
C'est ça, à l'automne et au printemps. C'est dans pas long, là, c'est au mois de mai, je pense que ça commence, là, la première fois. Excusez.
Est-ce que tu as la part d'une réponse, Morgane?
Non, j'ai eu une perte de paquet, là. Donc, j'ai compris que c'était au mois de mai, j'ai pas compris c'était quand la deuxième.
On avait dit printemps.
À l'automne.
Je suis désolé, j'ai encore des problèmes de réseau.
C'est pas grave. On va s'en sortir pareil.
Moi, de toute façon, les amis, je vais devoir vous quitter.
Mm-hmm.
Ah.
De toute façon, moi, j'avais plus de points.
T'avais plus de points?
J'avais juste une anecdote, c'est tout.
Eh bien, moi, j'ai des problèmes. Je sais pas si vous m'entendez, mais j'ai des problèmes.
Oui, on t'entend.
Mm-hmm. Excusez-moi, c'est cool, là, l'épisode a un peu traîné en longueur. Un peu traîné.
Par contre, moi, je peux raconter mon anecdote à toi.
Ok. Bon, moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir. Je suis désolé, j'ai des problèmes techniques sur la fin. Ça m'embête un peu. Putain.
Tu nous entends,
là? Oui. Très peu. Okay. J'ai l'impression de parler tout seul.
Non, on est là.
Excusez-moi, je vais vous laisser faire la terminer, puis vous m'enverrez vos pistes audio alors.
Parfait.
Parce que moi j'ai eu trop de problèmes. Et ben voilà, moi ça m'a fait très plaisir en tout cas.
Nous aussi.
Ça m'a fait très plaisir.
Bon, on a apprécié.
J'espère que vous avez pris du plaisir à venir rediscuter de vos expériences, de vos kickages.
Oui,
on est presque parti sur la diatribe, donc on a presque retrouvé l'esprit blog Linux.
Ouais, c'est très agréable. Merci pour l'invitation, j'apprécie.
Oui. Donc voilà, si vous voulez refaire ça anytime, maintenant que je suis sur la même time zone, si jamais un jour vous avez encore un geekage que vous souhaitez en reparler dans un podcast, moi je serais très ravi de.
Ah, merci à toi et à la prochaine.
Pareillement. Bye bye.
À la prochaine.